Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures de bonne humeur, durant lesquelles on se cultive aussi, c'est l'objectif de l'équipe est sauvage que nous propose chaque après-midi Mathieu Noël. Et le week-end, eh bien nous vous offrons une compilation des moments les plus marquants. Autour de Mathieu Noël, on va retrouver sa complice Eva Rock, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 en compétition pour le titre de chroniqueur du jour et un invité d'honneur. Aujourd'hui comme hier, ils seront avec nous l'écrivain Frédéric Becbédé, maître Emmanuel Pierrat, auteur du livre « La justice pour les nuls ». La romancière qui figure parmi les 5 auteurs les plus lus en France, Aurélie Valogne, mais aussi le journaliste et critique musical Philippe Manœuvre, sans oublier le duo de comédiens Cad Merade et Claudia Tagbo.
Claudia et Cad qui ont un point commun, la musique. Alors Cad est un grand mélomane, on l'a toujours su, ou en tout cas pressenti. Mais Claudia aussi, vous avez brillé dernièrement dans Ghost, le musical au Théâtre Mogador, inspiré évidemment du film culte des années 90, un film dont je vous avais demandé la dernière fois si vous étiez fan avant d'être contacté pour jouer dans ce remake musical. Votre réponse n'avait laissé aucun doute. Ghost, le musical. Déjà Claudia, est-ce que vous étiez vous fan du film ?
Ouais.
Alors, je vais vous poser une question très simple, Claudia, et il faudra y répondre un tout petit peu plus rapidement que la dernière fois. Étiez-vous fan de Cad Merade avant de jouer avec lui ?
Oui.
Vous le suiviez,
oui,
vous connaissiez
ça, oui, quand même. Oui, oui.
Ça vous a fait quoi le jour où il vous a proposé ? C'est vous, Cad, qui avez appelé directement Claudia ?
Oui, directement Claudia, il faut qu'on va faire une lecture. D'accord. Bonjour, ça va, tu vas bien? Donc oui, on est fan, oui, parce que les, en fait, c'est, j'ai envie de dire, j'ai plus chanté du Cad dans ma douche que.
Il paraît qu'il y a des sanctions pour les comédiens qui arrivent en retard aux répétitions. C'est vrai, Cad?
Oui,
vous avez mis en place un système de sanctions.
Ils sont passibles de la peine de collet serré.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que
c'est? Alors un collet serré, vous savez pas ce que c'est un collet serré?
Titre. Alors.
Oh, déjà là, j'avais oublié, moi, tu vois. Ça c'est bon. C'est danser du zouk, oui. Très collé serré, voilà. C'est,
et ça veut dire
zouk la série de Samedi Kamanouni.
Mais pourquoi c'est une sanction?
Zouk la série de Samedi Kamanouni.
On l'a pas ça en stock?
Bah ça, vous l'avez forcément.
Pourquoi c'est une sanction de faire un collet serré?
C'est cassable, c'est cassable. Hein.
C'est cassable, oui. C'est
pourquoi c'est pas une sanction? C'est parce que.
Non, c'est pour.
C'est un jeu. Ouais, voilà. De temps en temps, j'aime bien envoyer des petits mots à mon équipe. Non, attention, aujourd'hui, on est à l'heure, sinon il y a une, ouais, y a une peine. Mais de collet serré.
Ça donne quoi quand vous dansez collet serré?
Bah
tous
là,
les deux.
Je peux pas le faire.
Ah,
hein.
Si, parce que regardez. On l'a. On l'a.
Prends quelqu'un dans le public.
Non, je prends quelqu'un dans le public. Vas-y. Non, mais ça, c'est.
C'est la bonne version?
Ouais, c'est ça, ouais. Vous connaissez pas cette chanson, c'est un hymne.
C'est cassave.
C'est extraordinaire.
Enfin. Je connais cassave, mais je connaissais pas.
Après, ça repart, il y a les cuivres qui rentrent, enfin, ça, c'est enivrant.
Titre.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous connaissez Claudia Tagbo, vous connaissez Cad Merade, oui, mais lequel des deux préférez-vous? C'est la question vicieuse qu'on est allé vous poser. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrache, c'est pareil, le montage en moins.
Oui, je connais Cad Merade, ouais.
Un acteur français.
Et Claudia, comment? Tagbo?
Elle est jolie.
Oui, ça, lui, c'est bon, lui. Plutôt elle, parce qu'elle est plus jolie. J'aime mieux les filles que les mecs.
J'avais vu quand il joue avec, comment il s'appelle, celui qui est aussi d'origine algérienne, mais qui vivait à Valenciennes ou je sais pas quoi dans...
Il a joué dans les ch'tis, il me semble.
Oui, les ch'tis, ah, voilà, les ch'tis, excellent. Ah, Claudia, c'est une femme, ça. Ah, ben, Cad Merade.
Ah oui, lui, là. Ah oui, non, mais non, je préfère Claudia.
Oui, parce que sa mère, elle est normande. Je sais pas quoi, la mère de Cad Merade. Vous ne le saviez pas? Ah ben, moi, j'en suis sûre.
Ah si, Claudia, je l'adore. Alors, elle, là. Mais oui, elle est trop drôle. C'est une femme forte, je l'adore.
Oh oui, Cad Merade, je préfère.
Cad Merade, il date? Ah bah, solidarité féminine, ça va être Claudia.
Cad Merade, bien entendu. Il m'inspire beaucoup, tu sais. Puis il nous a fait rire, il nous a fait pleurer. C'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre de personnages, et surtout en France, qui savent encore rester dignes, et qui savent avoir le regard franc, voilà.
Claudia, elle fait du stand-up, et Cad, ben, comédie, un grand acteur français. Oui, j'aime bien les deux, ouais.
Alors, là, ça y est,
c'est
Cad.
C'est moite-moite. Hein.
Non, mais alors, c'est moite-moite, tout le monde vous aime tous les deux, mais là, je vais parler pour Cad sur la fin du micro, du micro-trottrage. Mmh. Fini le Camoulox, fini les sketchs de comédie, là, désormais, c'est grand acteur,
j'ai
c'est ça qui
grand
sort,
acteur français.
Ça, ça vous a plu, hein, ça.
Ça me fait quelque chose.
Oui, j'imagine. Ouais. Ça y est, bon, c'est un assistant qu'on a interviewé.
Oui, je sais, j'ai connu la voix de mon cousin, moi, carrément.
Mais c'est important pour vous, ça, Cad, on en parle toujours sur le thème de la plaisanterie, on en parlait d'ailleurs un petit peu la dernière fois aussi.
Je sens que ça va être sérieux comme
une question. Non, pas du tout. Mais en fait, moi, je vous soupçonne de vous en foutre, en fait, quand vous dites on me ressort le Camoulox, vous savez très bien que vous êtes un acteur, un comédien,
mais moi,
installé.
Je suis un comique.
Vous avez eu un César d'ailleurs.
Oui, mais moi, je suis né avec la comédie. J'étais fan de Jerry Lewis, de Louis de Funès et de Peter Sellers. Je revendique la comédie, je suis un acteur comique. Ça, c'est clair et net, j'adore ça. Mais peut-être que, les gens, de plus en plus, me préfèrent comme acteur. Je dis les gens, évidemment, le public, je crois.
Il y a Baron Noir aussi, ouais, on parle beaucoup.
Et en fait, je me rends compte que j'ai une part très, très pas sombre, hein, mais... Et peut-être que c'est ça aussi le je vais trouver le mot. Hein,
mais ça va venir, oui.
Oui, mais en fait, c'est vachement agréable, finalement, de pouvoir dire je suis un acteur comique, mais...
Avec une large palette.
À pouvoir jouer d'autres choses. De toute façon, les acteurs sont des acteurs.
Claudia, vous...
Manu.
Non, alors vous n'êtes pas Manu Payet, je suis Mathieu Noël. Claudia, vous avez explosé avec le Jamel Comedy Club, mais avant ça, vous faisiez des rôles très, très sérieux.
Oui, mais j'ai eu la possibilité, en tout cas, de pouvoir montrer, de pouvoir m'exprimer dans d'autres couleurs. Alors, on se calme. Dans d'autres. Oui, effectivement, de passer de Nordé à Stanislas ou de Novarina à du Jamel Comedy Club. Oui, mais en fait, j'ai envie de dire qu'on est là, les artistes, pour solliciter des différentes couleurs, pour solliciter des émotions. Donc, après avoir cette palette, de passer de l'un à l'autre, je trouve que c'est plutôt classe. Je trouve, d'avoir la possibilité de faire ça, je me trouve chanceuse. Au-delà de dire je suis sérieuse ou pas, je me dis. Tu es chanceuse de pouvoir faire d'autres choses, de pouvoir aller vers d'autres personnes, de pouvoir ouvrir des portes, d'ouvrir des imaginaires.
Voilà. On a l'impression que c'est ce qui vous rapproche tous les deux.
Oui, mais on a toujours l'impression, et ça revient toujours, cette question. Alors, ouais. est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans un... On a l'impression vraiment que c'est un vrai sujet. En fait, ce n'en est pas un, je pense.
C'est plus un sujet
de journaliste, ça.
Ouais, je pense.
Ils ont besoin d'avoir des choses à dire.
Bah, voilà. Et puis surtout, on aime bien vous mettre dans des cases.
C'est simple pour nous.
Et le public, lui, il prend. Il est content. Il adhère ou pas, et c'est
lui
le boss.
C'est
le boss, c'est le public pour moi. Donc voilà. Après,
notre coup de gueule, celui-là. Hein.
C'était vraiment engagé. C'est pas un coup de gueule, mais c'est juste
Claudia sur scène, elle a une présence comique inouïe. Ça veut dire que si elle demain elle jouait un drame, elle aurait autant cette présence. C'est ça qu'il faut savoir.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Avec Mathieu Noël et Eva Rock, mais aussi Jean-Philippe Ballas, hein, qui a voulu revenir sur l'émission Sex Machine, diffusée en deuxième partie de soirée, hein, samedi par mois, entre 1982 et 1985, sur Antenne 2, et qui était co-présentée à l'époque par Philippe Manœuvre. L'invité de l'équipe est sauvage, c'était lundi, sur Europe 1.
Vous ne le connaissez pas, ou du moins vous ne vous souvenez pas de lui. En revanche, lui se souvient très bien de vous. Depuis qu'il sait qu'on vous reçoit, il est hyper tendu, limite désagréable. Jeudi dernier, j'ai eu le malheur de savonner sur son lancement. Il a tout de suite pris la mouche.
C'est vrai que c'est un métier la radio quand même. Petit con.
Jean-Philippe Ballas, calmez-vous. Alors, c'est retrouvé avec Philippe Manœuvre, vous les attendez depuis longtemps.
Oui, parce que j'ai deux souvenirs, disons, douloureux avec Philippe Manœuvre. Le premier, dans les années 80, où, jeune adolescent, à la voix en pleine mue, et je ne vous parle pas du reste, je fais partie des fans inconditionnels de Sex Machine.
One, two, three, four.
Sex Machine, un miracle tout droit sorti du tube cathodique. Un miracle parce qu'une fois par mois, on nous parle de James Brown, on nous parle de Prince, de Michael Jackson, et miracle aussi, parce qu'une fois par mois, on peut voir de jolies filles un peu pin-up. C'est peut-être un détail pour vous, mais quand on a 13 ans, ça veut dire beaucoup. Et justement, ce soir-là, avec les copains, nous sommes en transe, littéralement, parce qu'au tout début de l'émission, Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet ont lâché une bombe. Tout à l'heure, du jamais vu dans l'histoire de la télévision française, nous assisterons dans Sex Machine au tout premier striptease
intégral.
Voilà pourquoi il vous en veut.
Je vous parle d'un temps d'avant les internets, il y avait 3 chaînes de télé et puis c'est tout. Autant dire qu'avec les copains, on était un peu crétins et surtout un peu mort de faim. Sauf que c'était une blague. À la toute fin de la séquence climax, la fille disparaît pour ne laisser à l'écran qu'un squelette, comme celui qu'on avait en cours de Sciences Nat. Oui, un squelette avec ce commentaire intégral, non ? Ce soir-là, vous avez trahi la confiance aveugle que nous avions mise à l'intérieur de votre perfecto. Et ce n'est pas fini, les amis.
Ah non.
10 ans plus tard, les années 90, je fais mon service militaire. Oui, à l'époque, c'était encore obligatoire. Et non, je n'étais pas un planqué, Mathieu. Tel un...
Mais moi, je n'étais pas un planqué, juste ça n'existait plus quand j'avais l'âge de le faire.
Tel un Elvis Presley de banlieue parisienne, je porte bien l'uniforme, mais par-dessus tout, je rêve de travailler pour Rock et Folk. Pas pour Best ni pour Les Inrocks, les autres revues, non. Pour moi, la Bible, c'est Rock et Folk pour tout amateur de guitares électriques. Alors, dans la caserne, j'écris une longue lettre de motivation. Longue, très longue, interminable.
Trop longue peut-être.
Je l'écris à Philippe Manœuvre, où je me prends pour Bob Dylan, Robert Zimmerman, avec un style plus proche de celui de Robert que celui de Zimmerman. Évidemment, je n'aurai jamais de réponse. Alors je vais prendre mon courage à deux mains et un bottin. Les enfants, si vous ne savez pas ce qu'est un bottin, vous demandez à vos parents, je ne peux pas tout faire. Je trouve le numéro de Rock et Folk, que j'appelle, ça sonne, ça décroche. Je reconnais instantanément la voix de mon interlocuteur. Là, j'ai le souffle coupé, parce que c'est lui... C'est Philippe Manœuvre qui, manifestement, n'a pas envie de me parler et qui va mentir éhontément. Cette scène a été reconstituée.
Oui, oui, non, non, c'est pas Philippe Manœuvre. Philippe est sorti faire une course, mais je peux prendre un message.
Et c'est ainsi que, pendant 5 minutes, j'ai fait mine de ne pas discuter avec mon idole, mon maître Yoda. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Je n'ai jamais signé dans Rock et Folk, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion... Les yeux dans les yeux, ou plutôt les yeux dans les Ray-Bans, plus exactement. J'ai l'occasion de vous dire merci pour la musique et merci pour le reste, monsieur Manœuvre.
Waouh, merci beaucoup Jean-Philippe Ballas pour ces beaux souvenirs. Vous vous souvenez d'avoir répondu et d'avoir dit que ce n'est pas vous?
Oh non, pas, j'aurais jamais, je peux pas l'imaginer. Soit ça devait être Mathieu qui
répondait
au téléphone.
Ça pouvait être quelqu'un qui imitait votre voix aussi.
Ouais, qui parlait un peu comme ça, oui, parce que tout le monde parlait un peu, je sais pas, peut-être que je les influençais.
Il reste convaincu.
Je trouve que vos hésitations disent long quand même.
Non, parce que franchement, dans Rock et Folk, on recrutait dans le lectorat les gens qui nous envoyaient des chroniques de disques. Souvent, j'ai pris mon téléphone pour les appeler en disant « J'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez envoyé. Est-ce que ça vous intéresserait d'en faire plus ?» Donc, Jean-Philippe, pardon, mais...
Non, mais mon psy vous remercie. Ça m'a pris des années, mais je suis ça.
C'est digéré.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
2 heures pour se détendre et apprendre. Mercredi, Mathieu Noël et Varrock accueillaient la romancière à succès Aurélie Valogne pour parler de son dernier roman, Né sous une bonne étoile. Et elle a pu découvrir le sujet d'Axel de Tarlé.
Celui qu'on appelle toujours le Dauphin d'Or. Ce n'est pas son surnom, c'est un prix qu'il a gagné et qui récompense le meilleur journaliste économique de France. Bon, ok, en 2003, mais quand même, c'est mieux que rien. Ça lui permet de frimer aux soirées du CE, ça et évidemment ses prestations dans le groupe Venin.
On n'était pas commercial.
Allez, Axel, ça c'est sûr. 9e du classement général, il est temps de se remettre en selle. Aujourd'hui, vous nous révélez les vrais chiffres des ventes de livres en France.
Voilà, donc les chiffres sont pas bons, hein, ça baisse, hein, moins 4,9% sur les derniers chiffres pour les ventes de livres. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, c'est pas mal quand même, une baisse de 5%. C'est pas mal parce que l'autre jour, on faisait Philippe Manœuvre là, sur les ventes de disques. Là, ça s'est effondré de 80%. Mm-hmm. Et donc finalement, dans un monde où tout part sur Internet, eh bien il y a un truc physique qui résiste, c'est quand même le bon vieux livre. Hein. La liseuse, ça marche très peu.
Ça marche peu, ça, ça
à peine France. 5% des Français disent lire de temps en temps sur Internet. 95% donc continuent d'acheter des livres papier. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on achète toujours des livres papier?
Parce qu'ils ont une odeur, nous expliquait Nicolas Carreau l'autre jour, qui était
là. C'est vrai, il y a le plaisir du papier, c'est l'une des raisons. Il y a une deuxième raison, c'est qu'en France, le prix du livre est très encadré. Et donc si vous achetez votre bouquin sur Internet... Vous aurez une petite réduction de 15 à 20%, mais vous ne pourrez pas le revendre, vous ne pourrez pas le passer à quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est un petit peu une impasse que de lire un livre sur Internet. Et la troisième raison, c'est le travail des libraires. Les libraires ont su faire de leur boutique un lieu de vie. Et très souvent, vous savez, quand on a les enfants en bas âge, qu'est-ce qu'on fait le samedi après-midi?
Ah, tout le temps.
On les emmène à la Fnac, aller au rayon livre.
Ou chez le petit libraire de son quartier, quand on est un bobo
comme
moi.
Ou chez le petit libraire de son quartier. Tout ça pour dire que la librairie est restée quelque chose d'attractif, qui donne envie d'y aller, et du coup, on achète. Et je dis ça parce que, alors c'est pas votre cas, mais bien souvent, les auteurs se plaignent de ce que les libraires, au fond, prennent tout l'argent. Ils prennent 30 à 40%. Quand vous achetez un bouquin, il y a 30 à 40%.
Ça, c'est intéressant. Combien sur un livre, combien
de 20 euros, il y a donc 40%, donc 8 euros qui part pour le libraire.
Combien pour l'auteur?
L'auteur à peine 10%.
Mmh.
Alors, les auteurs disent, attendez,
même vous, Aurélie, vous avez négocié mieux.
J'ai négocié.
Ah, bien joué.
Mais on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Donc, quand on touche 2 euros, on est content.
D'accord, voilà. Sur un livre. Okay.
Quand, voilà, un auteur, il touche à peine 2 euros sur un livre et c'est le libraire qui, lui, va gagner 8 euros, beaucoup plus que moi. Et en fait, on se rend compte que le libraire, il fait beaucoup pour porter les ventes de ce livre et on leur doit beaucoup. À mon avis, si les auteurs touchent peu, parce que c'est vrai qu'en France, les auteurs qui peuvent vivre de leur littérature, je crois, se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a très, très peu.
Je pense qu'il y en a un peu plus.
Je pense qu'il y a une dizaine, Axel, qui doivent
pouvoir vivre. Oui, les doigts des deux mains.
Sauf
avec les orteils. Mais vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à une profusion. Il y a beaucoup trop de livres qui sortent. Vous savez combien de livres sortent chaque année en France? Plus de 40 000.
Ah oui.
Chaque jour, ouvrez, vous avez 200 nouveaux livres qui sortent. Et un livre en moyenne se vend à moins de 5 000 exemplaires. Donc c'est pour ça que les auteurs ont du mal à vivre de leur littérature parce qu'ils écrivent des livres qui ne devraient pas être publiés en fait.
Eva Rock.
Mais quand vous dites 40 000 livres, c'est tout compris. Hein. C'est pas que des romans. Je pense qu'il y a aussi les livres de cuisine. Des livres, vous savez, des livres pratiques, du jardinage aux livres jeunesse aussi. Enfin,
rendez-vous
voilà.
compte, chaque jour, il y a 200 nouveaux bouquins qui sortent. Alors imaginez-vous le libraire, s'il faut que chaque jour, tiens, il y en a 200 nouveaux et ils n'arrivent pas en un exemplaire. Il y a une profusion quand même.
Justement, comment on fait, Aurélie Vallone, pour sortir du lot à ce point? Parce que ça paraît fou quand on se dit que les livres se vendent à 5000 exemplaires.
4700 même.
En moyenne, comment vous faites pour en vendre 1 million? Qu'est-ce qui fait que tout à coup votre récit, aussi qualitatif, aussi brillant soit-il, plaise à tant de monde d'un coup?
Je pense que ce sont des histoires qui les touchent parce que ça parle de leur vie, de leur quotidien. Moi, je fais des romans contemporains qui sont pleins d'émotions. Ce qu'on vit au quotidien, on le retrouve effectivement dans mes livres. Et c'est vraiment les lecteurs qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui me portent. Et c'est un bouche à oreille incroyable parce qu'un livre qu'ils ont profondément aimé, ils ne peuvent pas s'empêcher de le donner à quelqu'un qu'ils aiment en disant tu dois lire ça.
C'est vraiment votre succès.
Tu dois lire ça.
Racontez-nous ce que vous devez à Bernard Werber.
Ah oui.
Qu'on a reçu ici.
Alors je ne veux rien voler à Anicet pour sa chronique sur les tutos, mais effectivement c'est un gros coup de hasard. Moi donc j'ai commencé à écrire en Italie pour la première fois et je ne savais absolument pas comment faire. Contrairement à Gustave, mon héros, j'étais plutôt scolaire et donc je me suis dit mais je ne sais pas comment on écrit un roman, donc je vais chercher atelier d'écriture sur YouTube. Donc je tape atelier d'écriture sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Bernard Werber qui arrive comme ça dans une grande assemblée avec un paperboard sur le côté, un crayon, et dit j'ai rien préparé, mais je vais vous donner en gros 10 conseils. En fait, il savait exactement ce qu'il faisait. Et premier conseil, posez-vous la question de votre envie d'écrire. Si c'est pour raconter vos déboires avec votre conjoint, votre mère, etc., ça n'intéressera personne. Si vous voulez faire une petite psychothérapie, épargnez-nous la coupe des arbres. C'est une bonne question. Pourquoi j'ai envie d'écrire? Et là, donc, même moi, je me suis arrêtée dans la vidéo et j'ai commencé à réfléchir. Je suis revenue quelques jours après. Deuxième point, préparer un plan. Effectivement, retenez-vous d'ouvrir l'ordinateur, ça vous n'aurez pas peur de la page blanche. Vous réfléchissez pendant des mois et des mois à votre histoire et quand
avant
vous avez
d'ouvrir
tout,
le document Word.
Exactement, quand vous avez tout, là vous ouvrez l'ordi et ça sera fluide. Donc il a donné des conseils pratiques d'une générosité incroyable parce qu'il aurait pu faire payer ce tuto. Et aujourd'hui, moi ça m'a donné les clés à un moment donné où j'avais vraiment besoin de savoir de manière pratique comment on se lance dans l'écriture.
Et d'ailleurs, vous lui rendez hommage dans le roman, à Bernard Werber.
Je lui rends hommage, effectivement, avec une histoire qu'il raconte souvent, où une des profs, je ne sais pas si je peux raconter, sa prof lui demande de raconter une petite histoire toute mignonne, je ne sais pas s'il a 10 ans, et il explique, donc c'est l'histoire d'une puce née d'un père puceau et d'une mère pucelle. Et je trouve ça très, très drôle, donc effectivement, je lui ai emprunté.
C'est très mignon. Axel de Tarlet, vous avez un bouquet final dans votre chronique, une chute?
Non,
moi j'ai une chute. Moi j'ai une chute pour vous.
Aurélie, vous êtes vraiment l'invité idéal pour Axel.
Voilà, je vous sauve. Non,
merci beaucoup. Tel Gustave, il faut que je me révèle avec cette chronique.
Non, mais c'était une chronique vraiment intéressante et il y avait des chiffres que je connaissais pas, donc merci. Mais c'est vrai que moi je resterai aussi sur une note très positive parce qu'effectivement on dit qu'on vend moins de livres au total. Effectivement, au moins 5, c'est un constat. Mais par contre, il y a plus de personnes qui lisent en France. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est que c'est les gros lecteurs qui lisent un peu moins de livres par an. Mais on a recruté beaucoup de nouveaux lecteurs, notamment avec la lecture plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens qui avant ne lisaient pas du tout, se remettent à lire. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et notamment grâce aux libraires qui recommandent des livres plus faciles d'accès.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Nous sommes avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, hein, pour cette compilation de la semaine passée. Mardi, les chroniqueurs en compétition devaient convaincre, séduire, captiver l'avocat Emmanuel Pierra, qui était venu nous parler notamment de la nouvelle édition de son livre « La justice pour les nuls », collection First.
Se cultiver gaiement sans non plus aller jusqu'à se démettre en neurones, tel est l'objectif de l'équipée sauvage. Car vous connaissez l'adage Eva, mieux vaut une tête bien faite
que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie.
Non, c'est pas ça la citation. Aujourd'hui, en compagnie de Maître Pierra qui publie La justice pour les nuls aux éditions First, on continue de décrypter notre système judiciaire. Mais question d'actualité, Maître, on parlait tout à l'heure des Césars. L'autre affaire qui a excité peut-être un peu trop d'ailleurs les médias dernièrement, c'est l'affaire Griveaux. À la question comment gérer un scandale, vous répondiez ne jamais essayer de l'étouffer et le transformer en œuvre d'art. Est-ce que vous rediriez la même chose à l'aune de ce qui est arrivé à l'affaire Griveaux, vu la défense du principal accusé?
On ne peut pas dire que tout le monde s'en soit sorti de façon glorieuse, oui, dans cette affaire et dans la défense. Mais ceci dit, moi, alors, j'ai un cas un peu à part. J'aimais bien Piotr Pawlenski comme artiste avant.
Ah merde.
Donc, oui. Alors, je suis un peu au songeur, évidemment. Je suis seul, un peu seul dans cette position, mais c'est quelqu'un dont je suis le travail, parce qu'aux côtés des Femen, contre le KGB, en Russie, il y avait des œuvres d'art intéressantes. Là, c'est juste consternant. Voilà. Oui, donc, et tout est consternant, de A à Z. Je ne vais rien dire de mal contre Juan Branco, parce qu'officiellement, on est au même barreau.
Ah oui, donc vous n'y avez rien.
Donc voilà, hein, j'ai une sorte de devoir de réserve déontologique.
Mais sur ce qu'a fait, ça, sur la décision de Benjamin Griveaux de se retirer de la
campagne...
Il est marié
à une avocate, donc je ne dis rien non plus.
Alors, Maître Pierre, on continue de feuilleter l'actualité et votre livre, La justice pour les nuls. Mais si d'aventure, quelqu'un devait écrire un jour Le journalisme pour les nuls, c'est elle. Face à vous, notre ultime concurrente du jour, actuellement en tête du championnat des journalistes européens, Anne Le Gall est une pro qui connaît ses dossiers sur le bout des ongles, avec une prédilection pour le pôle Nord, zone géographique qui n'a aucun secret pour elle, comme elle nous l'a maintes fois prouvé.
Parce que maintenant, et surtout au pôle Nord.
Oui, surtout. Alors, ce soir, vous nous parlez, j'espère de manière un peu plus claire, d'un projet fou dans l'Arctique.
Voilà, je vais articuler. Je vais vous parler d'un immense congélateur pour graines, effectivement basé en Arctique. Il faut l'imaginer, un bunker, un tunnel où il fait moins 18 degrés en permanence. C'est un tunnel enfoui sous la montagne au Spitzberg, donc à 1300 km du pôle Nord. Et cette arche de Noé végétale a été inaugurée en 2008. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, il y a eu réception dans ce bâtiment de 60 000 nouvelles semences venues du monde entier, donc qui vont être conservées pour les générations futures. Parmi ces semences, on trouve par exemple des graines de courge ou de maïs offertes par des Indiens Cherokee, puisque ce sont des plantes qu'ils aimeraient préserver parce qu'elles ont une valeur sacrée. On trouve aussi 27 semences végétales offertes par le Prince Charles, des primes vertes, des orchidées, des fleurs qu'il a collectées notamment dans son jardin de campagne. Il y a aussi des cultures vivrières, du blé, du riz, un vieux pommier sauvage qu'on trouve en Europe et qu'on aimerait préserver. Et ce grenier mondial des semences donc contient aujourd'hui plus d'un million d'espèces. Il pourrait à terme en contenir jusqu'à 4,5 millions. Donc ce sont des petites graines dans des tubes à essai, dans des cartons et dans des caissons étanches, des caissons de couleurs sur des étagères. Tout ça sous un bâtiment en fait quasiment invisible. On voit juste la porte d'entrée.
Alors c'est quoi ? C'est du survivalisme végétal ? C'est-à-dire que si jamais tout s'arrête, on va pouvoir replanter ces graines un jour et repartir ?
Alors c'est l'objectif. Alors soit on les replante, mais on ne sait pas combien de temps va durer le pouvoir de germination. Soit on conserve uniquement le patrimoine génétique végétal. En fait, ça vient en soutien des banques génétiques qui existent un petit peu partout dans le monde. Il y en a 1700. Effectivement, l'objectif, c'est de faire face au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, voire à certains dégâts causés par des conflits. Il y a eu récemment utilisation de cette banque dans le bon sens, puisqu'il y a des chercheurs syriens qui ont demandé à sortir certaines graines de ce frigo, de cette arche de Noé végétale, pour faire repousser une espèce qui avait disparu par la destruction de la banque génétique de la ville d'Alep. Donc voilà, quand on pense à ce que disaient des experts réunis ce week-end à Rome pour préparer la COP sur la biodiversité qui aura lieu en octobre, il y a aujourd'hui 1 million d'espèces végétales et animales qui sont en voie d'extinction, en danger de disparition. Donc l'idée de cette arche végétale, c'est vraiment de travailler pour les générations futures. Et les graines donc, continuent d'appartenir à ceux qui les déposent, aux États, aux associations. Oui. Ce qui se pose, c'est la question de la solidité de la structure. Elle est enfouie dans le permafrost, donc tout est gelé. Mais en 2016, il y a eu des infiltrations dans l'une des salles, puisque évidemment, le réchauffement climatique n'épargne pas l'Arctique. Il est même deux fois plus rapide en Arctique. Donc se pose la question
de la durée de ce projet. Mais le gouvernement norvégien a investi d'ailleurs 20 millions d'euros dans ce projet.
Emmanuel Perret, est-ce que le droit de l'environnement est en train de gagner du terrain? Est-ce que vous avez des dossiers sur le droit de l'environnement? Est-ce que vous sentez que ça monte?
Il y en a partout, heureusement. Heureusement que c'est une question qui préoccupe le monde entier, la construction, tout un tas de choses. Moi qui fais de la propriété intellectuelle, je m'intéresse beaucoup au fait que des tribus ou les peuples autochtones restent propriétaires des semences. Parce qu'il y a eu des grandes OPA par des groupes internationaux d'agroalimentaires qui ont volé des semences de blé, de riz, qui se les ont appropriées, les ont déposées ensuite, interdisant à des populations
d'utiliser
leurs propres semences. Donc on a des famines en Inde qui ont été liées, ou en Afrique, qui ont été liées aux semenciers qui avaient privatisé des cultures traditionnelles. Donc je trouve très louable, cette initiative, cette façon. Il faut absolument sauver les semences, sauver les vrais propriétaires, pas uniquement les semences pour les donner demain matin à un industriel, et puis essayer de lutter contre pour sauver cette arche de Noé. Voilà, j'y suis très 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 sensible. Moi j'ai été, dans une vie précédente, je ne suis plus candidat au municipal, donc le CSA ne nous rattrapera pas, mais j'ai été élu, et notamment avec Europe Écologie Les Verts, etc. C'est parce que c'était une question qui me semblait importante, extrêmement capitale, et c'était il y a 15 ans.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage, 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et on passe l'après-midi en compagnie de Mathieu Noël, entouré de sa complice Eva Rock et d'un invité d'honneur. Et lundi, c'était le journaliste et critique musical Philippe Manœuvre qui a notamment raconté comment il avait fait la rencontre de Serge Gainsbourg et la relation qu'il avait entretenue avec lui.
Serge Gainsbourg, qui est quelqu'un de particulier dans votre vie, Philippe Manœuvre.
Ah bah oui. Oui, Serge Gainsbourg, c'est mon maître absolu. Enfin, il m'a tout appris, quoi. Il m'a appris que quand on arrive au restaurant, on prend sa serviette, on la met sur les genoux. Il m'a appris que quand quelqu'un vous rend un service dans l'industrie du spectacle, on appelle, on prend son téléphone, on dit « je voudrais te remercier de ce service que tu m'as rendu ». Enfin, c'était les règles, il m'a confié les clés, les règles du show business.
Et petite question, comment vous avez rencontré Serge Gainsbourg?
Pour aller faire une interview, j'étais journaliste.
Il vous a pris sous son aile.
Et voilà. Mais en même temps, j'ai eu un coup de bol extraordinaire parce que moi, je suis arrivé pour l'interviewer au moment où il allait sortir son album reggae. L'album n'était pas sorti. Moi, j'avais eu le test pressing, j'avais écouté tout l'été dans mon bureau à Métal Hurlant et je voyais que tous les gens écoutaient et disaient « mais c'est incroyable, c'est génial, quelle idée de fou ». Et tous les gens qui passaient me disaient ça. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On connaissait Bob Marley, évidemment, etc. Mais c'est Gainsbourg qui chante du reggae. Wow. Donc j'arrive chez lui et je lui dis, franchement, monsieur, votre disque, il est génial. Tous les gens qui l'ont entendu dans mon bureau le disent, ça va être un succès colossal. Et jusque-là, il vendait toujours 30 à 50 000. 50 000, c'était vraiment le maximum qu'il ait fait avec Melody Nelson. Qui était son chef-d'œuvre absolu, ça ne s'était pas vendu du tout, il n'arrivait pas à trouver l'oreille du public. Et là, cet album sort, mon interview dans Playboy paraît, et il en vend 2 millions.
Alors
donc
forcément...
il s'est dit, le gamin, là, j'étais un des gamins, il était malin, intelligent, brillantissime, et comme il avait 50 ans à l'époque, il s'était trouvé une bande de petits poissons pilotes. Il y avait Bayon de Libération, Philippe Manœuvre, Étienne Dao, François Ravard, peut-être quelques autres que j'oublie, pardon à eux, mais on était, voilà. Et donc quand il se disait, quand il pensait à un changement de musique, par exemple quand il a fait son virage funk, c'est vrai que tout le monde lui disait « Serge, écoute Chic, c'est ça qui se passe en ce moment. » Enfin voilà. Et comme on était trois, quand il y avait les trois des gamins qui lui disaient la même chose, bon, ça va, il faisait son virage funk. Mais il était très, très...
C'est vachement intéressant, parce que non seulement il vous a pris sous votre aile, mais vous lui avez donné des idées. Donc c'est ça qui est incroyable.
C'était un échange.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage.
Deux heures d'éclectisme total et militant, où le journalisme le plus rigoureux côtoie l'humour le plus potache, comme si Yvette Horner reprenait Daft Punk. Témoin effaré de cet éclectisme jusqu'au boutiste, la mémoire du rock, Philippe Manœuvre, est avec nous pour vous inciter à rejoindre, soit dans le groupe, soit dans le public, l'événement le 4 juillet prochain au Stade de France. Rock in 1000, deuxième édition, plus de 1000 musiciens amateurs sur scène. Il faut rappeler, Philippe, l'origine.
La genèse.
L'idée.
Voilà, c'était il y a quelques années, un fan absolu des Foo Fighters, qui s'appelle Fabio Zaffanini, était dans sa petite ville et il découvre qu'il y a une tournée des Foo Fighters qui ne passe pas par sa ville. Et donc, il est traumatisé. Il se dit, on pourrait attirer l'attention du groupe. Et il réfléchit, il se dit, et si on jouait un morceau des Foo Fighters à 1000 musiciens ensemble dans le stade de la ville? Donc il lance ça. Ils ont joué deux morceaux des Foo Fighters à 1000 musiciens. Et là, ils ont été 28 millions de vues sur Internet. Les Foo Fighters alertés sont venus jouer dans la petite ville. Calmez-vous, on arrive. Et puis, ils avaient pris le goût du sang, si j'ose dire. Ils ont découvert qu'à 1000, ça fait plus de bruit qu'à 4. Et que c'est même, ça produit un boucan incroyable. Enfin, quelque chose de très rock. Quoi. Et aujourd'hui, le rock se cherche des nouvelles limites à dépasser. Aujourd'hui, le rock, c'est la Hellfest. Je voudrais que ce soit Rock in 1000. On parle de Rock in 1000 comme on parle de la Hellfest, comme on parle de Burning Man dans le désert du Nevada. C'est au-delà des limites, comme on parle de festival de Roskilde où il y a 4 jours de métal non-stop au cercle polaire. Enfin voilà, aujourd'hui, le rock s'est trouvé des nouveaux challenges. On fait reculer la possibilité. Et nous, c'est dire à tous ces musiciens amateurs, pour un soir, voilà, vous allez être les Kings, vous allez être les Stones, vous allez être ce que votre plus grand rêve, c'était de jouer dans un stade. Parce que c'est un truc incroyable de jouer dans un stade, et puis au Stade de France. Pour nous, quoi, le rock étant très pyramidal, jouer au Stade de France, c'est le sommet absolu. Johnny Hallyday y a joué 9 fois. Et moi, j'ai déjà des musiciens qui me disent, vous croyez qu'on y arrivera? Vous croyez qu'on arrivera à battre le record de Johnny? C'est normal, ça fait partie du challenge.
Philippe Manœuvre, vous avez rencontré vos idoles toutes ces années. Les Stones, vous les avez interviewés des dizaines de fois. Est-ce que vous avez déjà été déçu par des gens que vous idolâtriez comme ça et qu'en les rencontrant, finalement, vous vous dites...
Non, jamais. Non.
Vous a rencontré Mathieu Noël?
Oui,
à part moi, mais Jean-Philippe Ballas. Moi, j'étais, je touchais les nuages quand j'arrivais dans une pièce où il y avait mes Johnny Winter ou Todd Rundgren. Je me disais, mais voilà. Puis je connaissais toutes les phases B de leurs 45 tours. Et donc, ils se disaient, tiens, celui-là, marrant, il connaît notre musique. Et donc, on avait des très bons rapports, très amicaux.
Par exemple, il est sympa, Mick Jagger. Je sais pas, il paraissait tellement inaccessible.
Mick Jagger, il est fabuleux. C'est vraiment...
Il est sympa dans la vie.
Ah, mais c'est un garçon extraordinaire. Il a toujours la petite anecdote. Il parle français. Enfin, c'est quand tu viens faire une interview télé. Je me souviens, dans les années 80, on faisait une interview télé pour Antenne 2. Ça s'appelait encore Antenne 2, les enfants du rock. Et je lui dis, mais vous intéressez à la politique? Vous avez un château en France? Vous intéressez à la politique française? Vous savez qui est le président, Mick Jagger? Du tac au tac, le général de Gaulle, non. Bon voilà, qu'est-ce que tu veux d'autre? Enfin, c'est du bonheur de rencontrer ces gens, parce que oui, ça pourrait être des mecs puants, affreux, mais que ce soit de Johnny Rotten à Mick Jagger, j'ai vu des gens d'abord qui étaient contents qu'on écoute leur musique, comme tous les musiciens. C'est tout, quoi. Mais Bernard Pivot m'avait dit la même chose à propos des écrivains.
Oui,
vous savez, quand on a lu le livre d'un écrivain et qu'on l'interviewe, il est tellement heureux que la moitié du boulot est faite. Et moi, connaissant tellement par cœur, ces musiciens, des fois, nous l'appelaient en disant « Oh, cette disque-là, je l'ai sorti avant celui-là, c'était avant du Pédia. » Tu vois. Et souvent, on était réveillés la nuit par des grands rockers qui nous disaient « Mais attends, je me souviens plus, ça, c'était où ?»
C'est fou. Ça, j'imaginais pas que ça allait à ce point-là. Je savais que vous étiez un puriste, mais je pensais pas que les mecs vous appelaient pour savoir ce qu'ils avaient joué.
C'est arrivé, bien sûr, c'est arrivé. Non, c'est arrivé une fois où c'était les Stones faisaient un album avec des morceaux acoustiques. Ils allaient faire leur unplugged, ça s'appelle Stripped. Et on a eu le bureau des Stones à appeler un certain nombre de fans, journalistes,
au-delà
de fans, en disant... Vous auriez voulu voir quoi sur cet album? Et moi, j'ai cité 3 chansons et il y en a 2 qui sont passées. Donc, je me...
Quel influenceur.
Moi, voilà, c'était réglé. Nobel, les Césars, l'Oscar.
C'est encore
tout
mieux.
Pénard.
L'équipe est sauvage, spécial rock continue avec Philippe Manœuvre. Mais qu'entends-je, Philippe? Et oui, c'est votre estomac qui gargouille. Il est temps de passer à la recette. Chaque soir, alors qu'au moment où vous franchissez votre porte d'entrée, vous vous rendez compte que vous avez totalement oublié de faire les courses, il vous sauve la mise avec une recette de secours. Voici le plus rock'n'roll des chroniqueurs gastronomiques, le genre de type sans filtre, capable lors d'un premier rendez-vous de s'exclamer
« Le pommard, ça fout le braquemard !»
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Bonjour.
Bonjour Philippe Manœuvre.
Oui, tu peux nous faire un quatrième bonjour si tu si t'es pas inspiré, tu peux aussi dérouler d'autres bonjours. Hein. Alors mon Olive, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
Recette rock'n'roll, évidemment, on va casser les codes, on va faire saigner les casseroles, on va repousser plus loin encore les limites possibles des recettes de cuisine classique. On va envoyer tous ces bons vieux bouquins de cuisine au feu pour réinventer la cuisine.
Et alors j'ai entendu parler d'un porc au café, Olivier. Pour l'instant, les bouquins que vous avez mis au feu, il faudrait peut-être les ressortir du feu rapidement, les sauver pour faire une bonne blanquette de veau à la place.
Oui, mais non, parce que j'ai entendu une petite pointe de doute tout à l'heure dans votre voix en vous disant « Côte de porc au café », c'est pas sûr que ça me plaise. Mais pourtant, je peux vous assurer que c'est une association qui marche vraiment bien. Alors, tout est dans le dosage. Et c'est vrai que le café en cuisine, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, comme le rock'n'roll non plus d'ailleurs. Le café, on va l'utiliser comme une épice. Alors, écoutez bien ce dont vous avez besoin pour réussir de manière inratable cette recette de côte de porc au café dès ce soir. Il vous faut pour deux personnes une belle côte de porc fermière taillée dans l'épaisseur. Il vous faut un peu de beurre, il vous faut 10 centilitres de bouillon de volaille, 5 centilitres de café, un café que vous aurez tout simplement préparé à la machine comme vous feriez un petit expresso, 5 centilitres de crème, sel, poivre. Alors l'idée, c'est d'abord de commencer la cuisson de votre côte de porc dans la matière grasse. On peut rajouter un petit bouquet garni et une petite gousse d'ail écrasée, ça va donner du goût. Et ce qui est important, c'est de régulièrement arroser cette côte de porc avec le gras de manière à lui permettre de bien caraméliser. La cuisson dure environ une quinzaine de minutes. Vous allez la tenir au chaud dans un four à 50-60 degrés où elle ne va pas continuer à cuire, mais justement, elle ne va pas refroidir parce que pendant ce temps-là, vous allez faire votre sauce. Alors pour faire la sauce au café, déglaçage de la poêle, c'est-à-dire poêle bien chaude. Déglacer, ça consiste à récupérer les sucs qui sont dedans. Alors avec votre bouillon de volaille, avec votre café et avec un petit peu de crème, vous allez laisser réduire tout ça de moitié de manière à ce que la sauce prenne un peu de consistance. Sel, poivre, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne restera plus qu'à arroser votre côte de porc avec cette sauce au café. Et croyez-moi, c'est surprenant, mais ça marche vraiment très bien.
Mais écoutez, je vois Eva Rock qui opine du chef. Elle a l'air d'approuver cette recette qui paraît bizarre sur le papier.
Oui, parce que l'association du café avec les viandes, c'est vraiment très très bon. Non, mais vraiment.
Eh bien écoutez, si c'est une recette validée par Eva Rock, je pense qu'on est parti pour la gloire. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipe est sauvage.
Et cette semaine, l'écrivain Frédéric Becbédé est venu nous parler de son dernier roman, L'homme qui pleure de rire, aux éditions Grasset. Il a pu découvrir la chronique de Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, qui a, pour l'occasion, choisi de parler de l'un des films préférés de Frédéric Becbédé.
Alors moi, Mathieu Charrier, j'aimerais que vous nous parliez et que vous nous révéliez les secrets peut-être de ce film.
Restons modestes, n'est-ce pas ? Non, déjà, ce qui est assez amusant de noter, c'est qu'au départ, à l'origine, Stanley Kubrick ne voulait pas du tout adapter Barry Lyndon au cinéma. Il envisageait un film sur Napoléon. À ce moment-là, il sortait du succès d'Orange Mécanique, du succès évidemment de la controverse, et il voulait faire donc un film sur Napoléon. Sauf que c'est un moment où il y avait un film sur Waterloo qui était sorti, qui n'avait pas du tout marché. Évidemment, un film sur Napoléon, ça coûte très très cher, et donc malgré Kubrick qu'il était devenu déjà, les studios n'ont pas voulu le suivre. Sauf que lui, il avait bossé des heures sur la documentation, etc. Donc il s'est dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça ? Il envisage un roman de William Makepeace, que vous connaissez sans doute, s'appelle La foire aux vanités. Pas possible. Et donc il prend le deuxième roman qui lui tombe sous le nez de cet auteur-là, et c'est Barry Lyndon, c'est les mémoires de Barry Lyndon. Donc c'est comme ça que, par un peu deux ou trois truchements, on se retrouve à voir ce grand film qui aujourd'hui fait l'histoire du cinéma. Alors là, vous deviez me demander, Mathieu, dans le livre, c'est déjà une voix
évidemment,
qui
mais
raconte...
Comme cette émission de particulière, j'ai oublié mes feuilles.
Parce que je le vois captivé sans feuilles.
Mais vous allez voir, ça va être ma faute.
Et dans le livre, déjà, c'est une voix off qui raconte, alors comme dans le film.
Est-ce que, point d'interrogation, et c'est là que je vous redondais.
Bon, oui, en plus, j'ai réussi à le dire.
Justement, voilà, puisque le livre, même quand il y a des notes, on se perd. Le livre, effectivement, si vous en rappelez, si vous l'avez lu, était raconté à la première personne, puisque comme je le disais, ce sont des mémoires de Barry Lyndon. Et je pense que le talent de Kubrick, c'est de se dire, moi, je vais le raconter à la troisième personne. Parce que ça met quand même une distanciation avec ce personnage qu'on va aimer, détester. Grâce à ça, si c'est jeu, s'il se raconte, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Dans son adaptation, Kubrick, il a aussi rajouté deux, trois moments. Il y a notamment, vous savez, le dernier duel. Ça n'était pas dans le livre. Ou la scène aussi, la conversation entre les deux homosexuels au bord du lac. Ça aussi, c'était pas dans le livre. Et je trouve ça amusant, parce que moi, le film, je l'ai vu il y a longtemps maintenant, et c'est des moments dont vous vous rappelez. C'est là aussi le talent d'un grand cinéaste, c'est de prendre des éléments d'un livre qui existe, mais de rajouter des scènes qui sont presque celles que vous retenez le plus, finalement.
Et alors, Barry Lyndon, dans le film, est incarné par Ryan O'Neill. C'est écrit pour lui ?
Pas du tout. À l'origine, il voulait, ça je l'ai redécouvert en préparant la chronique, il voulait Robert Redford dans le rôle de Barry Lyndon.
Ah bon ?
Alors, on aurait adoré. Qu'avait donné son accord en plus, finalement, ça s'est pas fait parce que ça a un peu traîné la mise en place et donc Redford était parti sur un autre film. Mais Ryan O'Neill, qu'on a quand même pas mal oublié depuis, à l'époque, c'était une des plus grosses stars américaines. C'était l'acteur le plus rentable, deuxième position derrière Clint Eastwood, c'est pas mal. Donc il prend Ryan O'Neill, sauf que le tournage se passe assez mal. Vous vous rappelez peut-être de la scène dans laquelle Barry, au chevet de son fils, larmoyant, enfin pleurant, etc., enfin à bout de nerfs. En fait, Kubrick, il lui a fait refaire la scène plus d'une cinquantaine de fois. Donc le mec était vraiment à bout de nerfs. Il en pouvait plus de cette scène. Et c'est comme ça qu'il pète complètement une durite et que ça donne ce résultat là aussi, dont on se souvient tous, et cette scène dont on se rappelle.
Et le film, qui aujourd'hui est devenu culte, on peut le dire, a marché à l'époque, au moment de sa sortie.
Alors, c'est un tournage qui a duré près de 200 jours, réparti sur 3 ans. Ça a duré des jours et des jours, ça a été très compliqué. C'est un tournage qui n'a pas coûté très cher, puisqu'il a coûté 11 millions de dollars. Il est sorti donc juste après la polémique liée à Orange Mécanique. Il faut savoir que Kubrick s'était senti menacé, parce qu'il avait été très critiqué pour Orange Mécanique. Au moment du tournage qui se déroulait en Irlande, il y avait un homme qui s'était introduit dans sa propriété, qui était en Irlande pendant le tournage. Il avait complètement paniqué pour sa femme, ses enfants. Il avait rapatrié tout le monde, donc le tournage s'était fini à Londres, le tournage du film. Et c'est un film qui a été détesté par la presse à l'époque, détesté par le public, qui n'a pas très bien marché. Il a rapporté moins de 10 millions de dollars, alors qu'il fallait qu'il en rapporte 30 à la Warner pour que la Warner rentre dans ses frais. Il a été nommé aux Oscars, il en a eu 2-3, mais pas du tout ce qu'on attendait. Il n'a pas eu meilleure réalisation, il n'a pas eu meilleur film. Donc là aussi, c'est toujours amusant de se rendre compte de ce qu'on retient de l'histoire du cinéma et de ce qu'on retient des films qui marche ou pas à l'époque. Ça reboucle un peu aussi toutes les polémiques autour des Césars, toutes les polémiques. Voilà, c'est qu'il y a un moment donné, on juge un film dans une situation, dans une époque, dans
peut-être
une société.
Peut-être qu'un jour, les Bronzés 3 sera à la Cinémathèque.
Je ne sais pas. Et vous vous rendez compte que 10, 20, 30 ou 40 ans plus tard, l'histoire du cinéma refait tout ça et vous retenez des films qui, à l'époque, n'avaient pas forcément été récompensés.
Et Baroque.
Est-ce qu'Orange Mécanique avait marché à
l'époque? Non, non plus. Non, mais alors, Orange Mécanique, c'est.
Mais c'est bide sur bide, ce Kubrick.
Dans l'histoire du cinéma.
Je m'en souvenais pas.
Non, mais dans Orange Mécanique, c'est surtout que ça a révolutionné la manière d'imaginer ce que pouvait être le cinéma et de comment montrer la violence au cinéma. Donc ça a marché rien que pour ça. Mais c'est vrai que Kubrick, qui est devenu un très très grand cinéaste, qui faisait peu de films, qui a fait peu de films, il a eu du mal à chaque fois à remonter ses projets, à retrouver des financements, parce que c'était pas forcément des films qui marchaient aux yeux du grand public.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël et Varrock, on va remonter un petit peu le temps. Vendredi 28 février, lors de l'émission En Public, et en présence de Kadmerad et Claudia Tagbo, eh bien l'un de nos correspondants est revenu sur cette super production cinématographique qui a mis la Dordogne en émoi.
Faites du bruit pour Kadmerad et Claudia Tagbo, avec Lionel Abelansky sur la scène du théâtre de la Michaudière à Paris dans Ami d'Amanda Sterz et David Foenkinos. La tournée, on l'a dit, est prévue après, normalement si tout va bien.
C'est envisagé, c'est pas encore signé, mais en gros ça sera en janvier 21.
Alors moi je vous conseille d'aller jouer en Dordogne, en ce moment c'est clairement the place to be. Pas vrai Stéphane Place? Qu'est-ce qui se passe en Dordogne? Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En fait il se passe une chose assez extraordinaire, Ridley Scott a décidé d'y tourner son prochain film, Le Dernier Duel, et c'est une histoire qui se déroule au Moyen-Âge. C'est à peu près tout ce que l'on arrive à savoir, puisqu'il n'est pas question d'approcher, ni même de jeter un œil. J'ai essayé cette semaine, alors que l'équipe tournait dans un château du XIIe siècle, accroché à une falaise à Bénac, au cœur du Périgord noir. Voilà ce que ça donne.
Bonjour. Bonjour. Donc c'est ici le tournage, alors?
Oui.
On peut pas passer?
Ah non, désolé. C'est chouette, non? C'était chaleureux. Et pourtant, je fais un bonjour hyper chaleureux, quoi. Ouais, non, ça n'a pas marché, j'ai été bloqué. Alors, dans le village, on constate le déploiement des équipes techniques, c'est assez spectaculaire. On croise des vannes aux vitres fumées, ce qui ravit les hôteliers restaurateurs, mais pas toujours les habitants.
C'est une aubaine pour le mois de février. Des nuitées, du restaurant.
Matt Damon, quoi, un grand acteur américain. Je le vois passer, hein, on le voit passer en voiture, et bon, ça fait plaisir.
C'est un vrai grand barnum. C'est assez contraignant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. On ne peut pas aller dans ça là quand il tourne. Oh là
là. Matt Damon, Ben Affleck, mais aussi des centaines de techniciens, de figurants. Thierry Bord est le directeur adjoint du bureau d'accueil des tournages en Dordogne.
Sur le nombre de techniciens, on est autour de 400 à 500 techniciens. C'est plusieurs dizaines de camions, c'est plusieurs milliers de mètres carrés d'espace pour pouvoir mettre des accessoires et des costumes. Mon travail, ça a été notamment de privilégier l'embauche locale, mais aussi de rayonner sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. On accueille beaucoup de figurants, périgourdins, mais pas seulement. Par exemple, trouver des choristes qui chantaient des chansons du Moyen-Âge et qui acceptaient d'avoir une tonsure pour jouer un moine dans un film.
une nouvelle version des choristes, donc, avec sans doute quelque part un baron noir hein, dans cette intrigue médiévale, un Philippe Rigvart à la cape boueuse fondant d'un coup d'épée un bon foie gras périgourdin, un truc comme ça. Enfin,
mais vous bon, en tout cas, j'ai le mec qui fantasme complètement le film de Ridley Scott. Si Ridley nous écoute, qu'est-ce qu'il va dire, Stéphane, franchement ?
Je ne sais pas, je suis pas certain qu'il nous écoute. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le film sortait à la fin de cette année, début de l'année prochaine, quelque chose comme ça.
Ah oui, des infos précises. Merci, bah écoutez,
on a fait ce qu'on a pu. Vous avez vu la
décrochage
hein.
régional. Magnifique, comment vous aurez essayé. Merci Stéphane.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et Maître Emmanuel Pira, l'auteur du livre « La justice pour les nuls ». Côté chronique, on verra avec Farah Kessri que le rire n'est pas le propre de l'homme. On entendra d'ailleurs un chimpanzé et un rat rire. Anissa Mbida nous parlera des MOOC, ces formations en ligne ouvertes à tous. Il nous dira comment ça marche et où trouver une bonne formation à distance. Eva Rock, elle évoquera la musique dans le cadre des performances sportives. Quant à Eve Roger, eh bien, elle s'est intéressée au burn-out émotionnel.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
Et oui, cette compilation du week-end qui se poursuit en compagnie de Mathieu Noël et Eva Rock, les chroniqueurs compétiteurs hein, de la rédaction d'Europe 1, parce que l'équipée sauvage, c'est une compétition aussi. Chaque après-midi, ils nous présentent leur meilleur sujet pour tenter de plaire à l'invité. Et parmi les invités, entre le vendredi 28 février et le jeudi 5 mars, eh bien, il y avait Philippe Manœuvre, la romancière à succès Aurélie Valogne, mais aussi Frédéric Becbédé, le duo de comédiens Cadmerade, Claudia Tagbo, sans oublier l'avocat Emmanuel Pira.
L'équipée sauvage spéciale justice continue avec notre invité Maître Emmanuel Pira qui publie un livre fort utile car non seulement nul n'est censé ignorer la loi, mais surtout, et on a tendance à l'oublier, oui j'ai un peu ripé.
Nul ouais. n'est censé quoi
nul n'est censé ignorer la loi. Oui, parce que c'est l'heure de l'apéro
sœur,
bientôt. Mais surtout, et on a tendance à l'oublier, n'importe qui peut avoir affaire à la justice du jour au lendemain. Ça peut aller très vite, par exemple en matière de responsabilité civile. Écoutez Maître ce très beau raisonnement de Mathieu Charrier.
Et tu sais, à vélo, le danger, c'est pas toi, hein, c'est les autres. Parce que toi, tu peux renverser un piéton, mais...
Vous prenez Charrier comme client, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus, ça, je vous le garantis.
Ça, c'est vrai.
Ah bah, alors, plus sérieusement, Maître Pierre, à quel âge avez-vous voulu devenir avocat ? Est-ce que c'était une passion ou un choix raisonné ?
À 14 ans, à Pantin, dans la commune de banlieue communiste où j'habitais et où je voyais les noms des avocats, grands hommes politiques et grands avocats ou grands hommes de lettres souvent, accrochés sur tous les murs de la ville communiste où j'étais. Donc il y avait tous les grands noms de la Troisième République. Et je me disais, il y a ce métier extraordinaire qui existe, de gens qui n'avaient pas de famille riche, qui n'héritaient pas d'une charge, qui pouvaient, par la force du verbe, sans aucun moyen matériel autre que la parole, devenir quelque chose et défendre quelqu'un. Voilà. Ça peut paraître très angélique, hein, mais c'est vraiment ma vocation est née comme ça.
Il y a une grève des avocats, dernièrement, contre le système de retraite. Vous êtes de ceux qui ont jeté la robe pour manifester votre mécontentement ou pas du tout ?
Je n'ai pas jeté ma robe, parce que c'est un geste que je ne ferai jamais, mais je suis solidaire avec les grévistes, bien sûr. C'est un peu long à expliquer et ça nous emmènerait sur l'état de la justice en général. Mais c'est vrai que la façon dont la ministre de la Justice traite le système judiciaire dans son ensemble, hein, l'aide juridictionnelle, les moyens donnés pour juger des affaires et le traitement des avocats est digne d'un pays qui n'appartiendrait même pas à l'Union européenne si on prenait les vrais chiffres. Hein. On ne nous compare même pas avec la Moldavie. On est très en dessous en matière de prison, en matière de moyens. Il nous faudrait presque une sorte de coronavirus dans la justice. Vous voyez, l'hôpital public... Non mais l'hôpital public va s'en sortir in extremis parce que d'un seul coup, le gouvernement va mettre des moyens face à la crise. Nous, il n'y en a pas de coronavirus, donc on va mourir doucement, entre guillemets, d'une justice on dit plus de tiers-monde parce que c'est pas politiquement correct, oui. Mais c'est à peu près ce que je pense. Et la justice est dans le même état, c'est un endroit essentiel de la République, c'est comme l'école. Il y a l'école, il y a l'hôpital public et il y a la justice pour moi qui sont dans les rouages essentiels. Après, on peut rajouter l'impôt quand on est hyper civique, mais quand même, c'est pas notre truc préféré. Voilà.
Connaissez-vous vos droits et vos devoirs, car les deux vont de pair. Il publie La justice pour les nuls. Emmanuel Pierrat passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Il publie La justice pour les nuls. Son métier d'avocat est également sa passion. Ado, devant cette célèbre scène de Star Wars où Darth Vader annonce à Luke
« Luke, je suis... » ton père.
Il se disait pas comme nous, tiens c'est ouf, mais ok, si c'est son père alors il a droit à 50% des parts de la SCI, sauf si on apprend ensuite que Léa est sa sœur. Là, sauf que d'ici le dérogatoire et conformément à l'article 212 du code civil, il n'aura que 25% diminué des frais de mutation. Maître Emmanuel Pira nous accompagne et nous éclaire cet après-midi. Alors, Emmanuel Pira, est-ce qu'aujourd'hui un avocat est obligé d'être médiatique
c'est devenu nécessaire. À une époque, c'était peut-être une coquetterie. Aujourd'hui, pour fonctionner, quand on a un grand cabinet d'avocats comme vous, il faut être présent dans les médias.
Oui, moi, je pense qu'il faut parler, en tout cas, en dehors de la salle d'audience. Souvenez-vous, la salle d'audience en France, c'est un endroit incroyable. On ne peut pas y filmer, on ne peut pas enregistrer. On peut y faire des dessins d'audience, des petits dessins, et le compte-rendu judiciaire, la chronique judiciaire, qui est souvent faite par les excellentes femmes journalistes, elle est faite le soir dans le journal, sur les marches du palais, à la radio ou à la télé en deux minutes, ou dans un écrit qui vous raconte, vous résume le procès. Donc c'est un endroit où se passent des choses essentielles, mais qu'on ne peut pas filmer. On peut y venir, c'est public. Alors il y a évidemment des échos déformés, parce que si vous ne pouvez pas saisir en direct et si le public ne peut pas suivre en direct ce qu'il se passe, et je ne le reproche pas, hein, je trouve que la sérénité des débats, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas se comporter en fonction de l'angle de la caméra dans un box quand on est accusé ou quand on est en train de plaider, me semble assez rassurant. Mais en même temps, derrière, l'opinion publique, elle parle du procès, elle parle de votre affaire. Les juges font partie de l'opinion publique parce qu'ils déjeunent avec leurs amis, ils parlent avec leurs enfants, ils ont beau essayer de séparer, donc il faut aussi leur parler quand ils regardent la télévision.
Alors, cher maître, des plaidoiries difficiles, vous avez dû en connaître. Mais dans la séquence qui suit, si vous espérez l'emporter, il va vraiment vous falloir tout donner. Voici le quiz contre Evaroc. Manuel Pierrat, pour ce quiz face à Evaroc, on va parler de justice.
Je suis déjà fatiguée.
Rien de plus simple, c'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point, c'est parti. Evaroc. Dans le Kentucky, en 1996, Larry Ruttman a lancé un boomerang qui lui est revenu dans la tête. Il a intenté un procès contre lui-même pour blessures involontaires. Il a perdu, mais son assurance a été contrainte de l'indemniser. Du coup, il a empoché 300 000 dollars. Vrai ou faux?
Il me semble que c'est vrai.
C'est vrai?
Ouais.
C'est faux! Ah, c'était une info du Weekly World News, qui est en fait l'équivalent du Gorafi en France.
Ah, je lis ce journal alors.
Donc. Voilà, vous, non, vous, vous, le problème, c'est que vous le lisez au premier degré depuis 2010. D'où un certain nombre d'informations que vous avez données à nos auditeurs qui n'étaient pas correctes. Emmanuel Pierrat, dans le Code du travail, si on effectue des travaux salissants, non seulement le temps passé sous la douche doit être pris en compte dans la durée du travail effectif, mais en plus, la température de l'eau doit être réglable. Vrai ou faux?
Pour la température de l'eau, je ne crois pas, mais pour le reste, oui, je pense que c'est compensé.
Quelle est votre réponse? C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai, plutôt vrai.
C'est vrai? Oh, vous avez eu chaud, maître Pierrat. C'était la bonne réponse. Alors, c'est non. L'article R4228-9, je ne sais pas comment on dit, du Code du travail. Et, oui,
bah oui, qui prend en compte le fait que vous vous salissez, que vous avez un temps supplémentaire chaque jour, quotidiennement, pour aller vous nettoyer, et qui n'est pas lié à l'hygiène, mais qui est lié à votre travail.
Et alors vous,
donc,
pour vous...
Les douches, alors,
ouais, mais vous, oui, vous devez nettoyer votre langue avec toutes les...
Avec tout quoi, toutes les saloperies qui
disent la journée. Oui, il doit nettoyer sa langue avec toutes les saloperies.
Oh, ouais. Oh, mais quelle attaque.
Ah oui.
Ah, attention.
Mais son, c'est son pas travail. Le métier qu'il salise, c'est lui-même. Allez, hop.
Emmanuel Pierrat, je vous fais écouter Boogie Nights du groupe Heatwave.
Ça sent le plage là.
Et
ça,
maintenant, hein, je vous fais écouter Off the Wall de Michael Jackson. Il y a une certaine ressemblance. Mais il n'y a pas eu de problème en fait. Pourquoi? 1. Parce qu'ils avaient déjà pompé le morceau sur un autre groupe, du coup ils n'ont pas fait de procès. Ou 2. Parce que le compositeur est le même pour les deux chansons.
Je dirais la 1 parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était Michael Jackson en composait avec Quincy Jones. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait fait également Boogie Nights.
J'aurais répondu exactement ça, Eva.
Moi j'aurais répondu la 1 aussi.
Oui, et ben on aurait tous eu tort. Le compositeur, moi je pensais que Off the Wall c'était Michael Jackson ou Quincy Jones. Non, c'est le même compositeur, Rod Temperton. On lui doit Thriller, Give Me the Night de George Benson et Stomp des Brothers Johnson. Gloire à Rod Temperton. Eva Rock, attention, vous pouvez peut-être remporter le quiz aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est exactement des votes.
Non, j'ai déjà perdu.
Du compteur. Eva Rock, le témoin dans un procès vient du latin testis, qui a donné testicule. Vrai ou faux?
Franchement.
Mais c'est très sérieux, Mathieu Charrier. C'est une question pointue
de tricher, mais...
devant Maître Pierre.
J'irai vrai.
Elle dit vrai. C'est la bonne réponse. Dans la Grèce antique, un témoin devait jurer en mettant sa main sur ses testicules. Oui. Vous connaissez cette histoire,
Maître Pierre? Oui, bien sûr, parce que c'est de la façon dont ne pouvaient témoigner que les hommes. Et pour désigner, pardon, le fait, la virilité, il fallait... Mais on fait ça aussi, on a fait ça pendant longtemps pour les papes. Vous savez, après l'histoire de la pape Jeanne, pour vérifier que le pape était véritablement un homme et pas une femme qui était déguisée. Et donc, on vérifiait les testicules. Voilà, pour être sûr du témoignage, entre guillemets, de celui qui allait réincarner la succession de Pierre.
Je reconnais avoir triché.
On vérifiait les testicules, c'était le mot de la fin. Qui remporte ce quiz?
Non, c'est Maître Pierrat parce qu'il m'a donné la réponse.
Comment ça, vous avez triché?
Et parce que j'ai regardé dans les yeux Maître Pierrat et il m'a fait un petit clin d'œil pour me faire comprendre que c'était vrai la réponse.
Mais c'est pas un clin d'œil MeToo, hein. On est d'accord, hein. C'est
attention,
un clin d'œil
attention.
D'aide, voilà, de solidarité. Bon.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, avec maintenant
Farah Kessri pour nous parler du rire en présence de deux acteurs comiques, Canmera, Claudia Tagbo, à l'affiche de la pièce Amis au Théâtre de la Michaudière à Paris, une pièce que Canmera a mise en scène.
Farah Kessri, qui est avec nous aujourd'hui. J'ai prononcé pour une fois bien son nom. Ah, c'est une tentative seulement,
oui.
Farah, c'est pas mal.
Ça a provoqué quelques chatouillements dans le ventre, donc c'est pas mal.
Coquine.
Titre. J'attendais celle-là.
Farah, vous êtes notre deuxième concurrente du jour. Vous êtes une bosseuse, mais je vous mets en garde sur la dimension psychologique d'une chronique face à Cadmera. Deux cas de figure, tout aussi déstabilisants l'un que l'autre. Soit, comme beaucoup d'invités, il se contrefout de votre sujet, mais à la différence des autres invités, lui, il le fait savoir.
Le pays est sous le choc, vous en avez sûrement tous entendu parler.
Oh oui, oui, on a entendu parler. J'espère que vous n'avez pas en parlé en tout cas, parce que je suis saoulé là.
Soit pire, pire, il aime le sujet, mais il aime encore plus se foutre de votre gueule. La dernière fois, ce pauvre Nicolas Caron en avait fait les frais.
Moi, je suis pas particulièrement fan de sport.
Et ça se voit d'ailleurs un peu.
Oh, je suis affûté quand même, eh oh.
Je me demandais si vous étiez de profil ou de face en fait.
Il ne vous reste plus qu'à prier, Farah. On est
Faut
tous avec vous.
Moi.
Alors, vous nous annoncez aujourd'hui, Farah, que le rire n'est pas le propre de l'homme. C'est étonnant.
Oui, absolument. Il serait même apparu 8 millions avant le premier homme. Alors imaginez ce premier rire en Afrique, émis par l'ancêtre du chimpanzé. Cela pourrait ressembler à ceci, si on peut en parler.
Ça c'est Eva, ça c'est quand on a... Non, parfois quand on répète... Elle...
Eh bien pas du tout, c'est le rire d'une femelle chimpanzée qui vit dans le centre de primatologie en Guinée. Eh bien pour l'entendre, il a suffi tout simplement de la chatouiller.
Aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça.
Les grands singes ne seraient pas les seuls à pouvoir rire, les rats aussi.
Absolument. Et là, ce qui est intéressant, c'est une étude faite par deux neurologues du Centre de neurosciences de l'Université de Berlin, donc Shinpei Ishiyama et Michael Brecht. Ils se sont amusés de façon très sérieuse et méthodique à chatouiller des rats à différents endroits. Et alors, si vous avez jamais entendu un rat rire, c'est pas parce qu'ils sont incapables de rire, mais c'est tout simplement parce que notre oreille, c'est
n'entend
elle
pas.
Qui n'entend pas. Alors, je vous rappelle que notre audition peut capter des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20, c'est des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Les rats émettent des vocalisations entre 20 et 100 000 Hz, c'est-à-dire qu'au-dessus de 20 000, on ne les entend plus, ce sont des ultrasons. Et justement, leur rire serait autour des 50 000, c'est pour ça que nous, on ne les entend pas.
Et là, à quoi ça ressemble le rire d'un rat ? Si on peut l'entendre.
Eh bien, vous pouvez l'entendre. Il faut savoir que les chercheurs, pour pouvoir entendre toutes ces petites vocalisations en ultrasons, ils ont placé plein de petits microphones et ils ont bidouillé un petit peu avec une machine pour pouvoir les amplifier et que ça se devienne audible. On va entendre un rat qui rit.
Un rat qui rit.
C'est un film d'horreur.
Ah, oui. Ouais, c'est un peu...
Ça, c'est quand t'as ton téléphone dans la poche. Là. Et qu'il a... ah,
ça ressemble un petit peu c'est à ça.
On fait avec les moyens du bord. Hein,
oui, oui, parce que j'ai l'impression que c'est une grosse pipo. Ça sent,
là, non, je vous invite à voir la vidéo sur Internet. C'est pour ça que je vous ai donné les références des deux neurologues qui ont fait cette expérience. Eh bien, ce sont vraiment des petits couinements, hein, des petites vocalisations courtes et rapides. Et pour être sûr que c'était bien des sons du rire, ils ont essayé de voir qu'est-ce qui était une émotion positive et qu'est-ce qui était une émotion négative. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enregistré aussi les sons émis par un rat quand il était tout seul, quand il était tout triste, ou bien quand il était avec un copain qu'il était en train de jouer, ou bien quand on lui donnait à manger. Et là, ils ont pu voir eh bien, tout simplement que quand il était tout simplement content, qu'il avait une émotion positive, c'était bien autour des 50 000 Hz, donc bien autour de ce qu'on avait enregistré pour le rire. Eh bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que aussi ils ont observé le comportement. Quand on fait introduire en fait la main dans la petite cage où on va aller chatouiller. Ça aussi.
Enfin, je suis désolé, mais.
Ben oui, oh, ben, il y en aura d'autres.
Hein. Il vous écoute plus du tout. J'ai
il est en train de scruter le mot. Le mot.
Excusez-moi, mais introduire la main dans la petite cage, pour moi, c'est, ça peut faire un titre intéressant.
Là, c'est le meilleur
titre
de la
journée. Moi, je ne pas ça comme une cage, mais pourquoi pas.
Ça dérape, ça dérape.
Donc, en fait, quand les chercheurs ont testé justement le comportement de l'animal, hein. Donc ils ont essayé de voir si le rat aimait bien qu'on aille le chatouiller, et bien ils ont remarqué que le rat, à chaque fois que la main du chercheur se retirait, et bien il se mettait sur ses pattes. pilote arrière pour aller voir où est-ce qu'il y en avait, où est-ce que le chercheur se cachait. Et dès que la main revenait, très cher Mathieu, eh bien...
C'est beau, c'est presque poétique, ça.
Eh bien, finalement, le rat revenait. Ça veut dire qu'il aimait bien se faire chatouiller.
C'est super.
C'est quoi l'intérêt scientifique?
Madame, je suis à l'école, je te jure. C'est un truc de fou. Je peux sortir faire pipi ou pas, là?
Madame, c'est quoi l'intérêt scientifique de tout ça? Ça permet d'analyser en amont ce qu'est le rire.
La véritable question qu'on doit se poser, c'est finalement... Pourquoi le rire existe? Puisque le rire est commun à différentes espèces, qu'il a persisté au cours de l'évolution, on sait très bien qu'au cours de l'évolution, la nature ne garde pas ce qui est inintéressant.
Donc le rire est primordial.
Exactement, le rire est vital. Et nous faire rire, tous les deux, ben c'est vital, en tout cas pour mon bien-être, et merci à vous.
Oh,
merci.
Et en plus, merci. Elle cire les pompes des invités, ouais, c'est bien joué, les paracasseries.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Avec Mathieu Noël, revivez les moments phares de la semaine passée, semaine qui s'étire du vendredi 28 février au jeudi 5 mars. Et mercredi, la romancière Aurélie Valogne est venue nous parler de son dernier roman, Né sous une bonne étoile, aux éditions Mazarine, et elle a pu découvrir le sujet d'Anissé Mbida.
Là où nous entraîne maintenant notre expert high-tech Anissé Mbida, le net, le World Wide Web, comme dit ma tante Josie. Le danger est au détour de chaque page, de chaque onglet, de chaque cookie, au détour de chaque chat avec un inconnu qui vous propose vite des trucs chelous.
Montre-moi ton kiki, par exemple.
Heureusement, pour nous guider dans ce monde hostile, Anissé Mbida est là. Aujourd'hui, vous nous parlez des MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC, Anissé? Il faut expliquer à ma tante Josie.
Alors, MOOC, si je veux traduire, c'est Massive Open Online Courses. Ça veut dire, grosso modo, c'est une bibliothèque de cours sur Internet. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cours parfois très interactifs, avec des vidéos, avec des QCM, etc. C'est très, très... Ça se développe énormément. Il y a des milliards, mais des milliards, milliards de sujets qui sont développés, parce qu'on a tendance à dire qu'Internet, c'est du buzz, c'est des réseaux sociaux, mais ça peut aussi être un très bon outil d'apprentissage pour découvrir des vocations. Oui. Vous nous avez expliqué, Aurélie, que la vocation, l'envie d'écrire, en tout cas, préparer mentalement à l'écriture, ça a été fait par un tuto sur YouTube. On a l'impression on pense que le tuto YouTube sur YouTube, c'est simplement des jeunes filles qui apprennent à se maquiller.
Ou
des
garçons. De veau, quoi.
Ouais. Ou des garçons qui trucident des zombies. Non, on peut avoir des choses très, très intéressantes avec des sujets extrêmement variés. Alors, du côté artistique, moi, j'ai noté qu'il y a François Berléand qui explique comment devenir acteur, comment ne pas devenir acteur. Oui, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Tout le monde n'a pas les capacités d'y aller, c'est exactement comme pour l'écriture. Chantal Thomas qui explique la création de mode, tout ça, c'est des masterclass qui sont mises en ligne sur Internet.
Mais attendez, ils font tout ça gratuitement là?
Non, non.
Si j'étais François Berléand.
Il y en a certains qui sont gratuits directement sur YouTube, mais sinon, il y a des organismes, notamment des MOOC, très formatés, et évidemment, quand les choses sont de qualité, il faut souvent les payer. Alors là, on parle de sujets artistiques ou des sujets du spectacle, mais ça va très très loin, ces fameux MOOC. Il y a énormément de sujets sur la gestion, le marketing, les sciences, le développement personnel. On en trouve un peu partout. Par exemple, un sujet comme l'intelligence artificielle, c'est peut-être une des compétences les plus réclamées aujourd'hui. Il y a un MOOC notamment qui est très connu, un MOOC qui est au CNAM, celui du site du CNAM, un MOOC gratuit, qui explique, même aux personnes qui ne sont pas des mathématiciens, qui ne sont pas des scientifiques, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se développe, comment s'intéresser, comment pratiquer, comment y aller tout doucement. C'est des cours qui durent plusieurs semaines, si on veut les suivre, et même certains sont sanctionnés à la fin par un diplôme. Mais en tout cas, vous avez fait la formation, et donc ça veut dire quelque chose.
On peut le mettre sur son CV.
Oui, ça veut dire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, je vous ai parlé de ceux du CNAM, on cherche la question qu'on se dit, mais il y a des milliards de cours en ligne, comment je trouve les bons? Alors, moi, je vais vous parler de ceux du CNAM, on parle de l'intelligence artificielle, je sais pas, des sujets comme la mécanique automatique et la production, la psychologie au travail, il y a des sujets extrêmement variés. Il y a des cours qui sont plus souvent payants, sur tous les sujets à la mode, c'est chez LinkedIn. On pense que LinkedIn, c'est simplement de la mise en relation, mais il y a beaucoup de cours de formation sur les compétences très, très pointues. Une société qui s'appelle Udemy aussi, Open Classroom, où pour tous les sujets à la mode, par exemple, le management compassionnel, le marketing de conversation.
C'est le management que je pratique moi, non?
Un petit peu.
Alors, vous n'avez pas fini le cursus, en fait.
Non, il n'a pas commencé.
Pas validé la formation, mince.
Gérer son e-réputation, la méthode Six Sigma ou la méthode Scrum, c'est des sujets qui sont très à la mode aujourd'hui dans les entreprises. Eh bien, on peut aller s'informer à son rythme, c'est surtout ça qui est intéressant, tranquillement, en allant sur les cours sur Internet. Ça va très loin. Il y a aussi, pour son savoir-faire universitaire, la plupart des grandes universités mondiales ont mis leurs cours en ligne sur Internet. Il y a des sites comme EDX, Coursera, France Université Numérique, où c'est l'ensemble des grandes écoles françaises qui ont mis leurs cours en ligne. On peut les suivre directement en ligne. C'est extrêmement intéressant. Et même pour des notions plus simples, on en revient à YouTube. YouTube, si vous voulez, par exemple, savoir comment faire un tableau croisé dynamique ou faire faire un publipostage sur Word.
Tu sais même pas ce que ça veut dire.
Ah, ouais. Je note de moi.
C'est pas gentil, Aurélie.
Pour une fois, j'avais compris, moi.
C'est pas gentil, je suis juste nul.
Vous allez sur YouTube et on vous explique ça par le menu. C'est très bien fait.
Vous, maintenant que vous êtes au top, Aurélie, vous faites vous-même des tutos comme Bernard Werber le faisait. Vous vous expliquez aux gens comment faire des romans.
Non, en fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée. J'ai beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui regardent mon parcours avec des grands yeux, notamment parce que je suis passée par l'auto-édition. Moi, aujourd'hui, mon énergie, effectivement, je la mets plus sur les romans que j'écris et la démocratisation de la lecture. Donc, je vais beaucoup en école. Par contre, un jour, je pense que effectivement, je donnerai des cours d'écriture, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire. J'ai pas le temps.
Et vous n'avez pas le temps. Anissa,
il y a un sujet qui a du mal à se développer, c'est l'apprentissage des langues, parce que il faut pratiquer. C'est pas simplement écouter quelqu'un. On peut apprendre certaines notions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en développe aujourd'hui des podcasts en anglais. Donc, on écoute dans le métro, dans les transports, etc. Et on s'informe de la langue. Il y a un truc très intéressant, c'est des plugins sur Netflix pour apprendre la langue en regardant ses séries préférées.
C'est génial,
un système
ça.
Qui met deux sous-titres en même temps. Ouais. Vous avez les sous-titres en anglais, les sous-titres en français. Et quand vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus, il donne le dictionnaire. Vous pouvez ralentir la vidéo pour pouvoir bien entendre ce qui se passe. Et
mais
donc,
là, tu regardes un épisode de Game of Thrones, ça te met trois soirs à regarder. Quoi.
Oui, mais là, le but du jeu, c'est pas de regarder la série.
Oui,
c'est
non, j'ai bien
notamment,
compris,
il faut le faire sur des séries qu'on connaît déjà. Comme ça, on n'est pas obligé on déconnecte l'histoire de l'apprentissage, mais ça permet d'apprendre du nouveau vocabulaire et surtout de s'habituer ses avec l'accent qui n'est pas forcément évident.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
17h28, on continue à se détendre et à se cultiver avec Mathieu Noël. Notre compilation du week-end se poursuit sur Europe 1. Alors à ses côtés, on va retrouver maintenant Eva Rock qui va nous parler musique en présence du critique musical Philippe Manœuvre. C'était ce lundi sur Europe 1.
Philippe, je vous demanderai attention et indulgence envers Eva Rock, puisqu'elle remplace au pied levé, on l'a dit, Virginie Fulpin. Alors, Eva...
Alors, heureusement que je connais un peu le sujet.
Vous connaissez un petit peu le sujet quand même, rassurez
nos
auditeurs.
On dit que la musique permet d'améliorer la performance sportive. Philippe, c'est assez intuitif, c'est vrai, la musique nous aide à être meilleurs quand on pratique du sport. D'ailleurs, la Fédération internationale d'athlétisme a interdit le port de casque audio pendant les courses de fond comme le marathon, parce qu'ils assimilent cela
à du dopage
psychologique. Ah, exactement. Vrai. Alors, c'est moins dangereux pour la santé que le vrai dopage. Enfin, ça dépend ce qu'on écoute. Partout, vous trouvez des playlists aujourd'hui pour faire du sport. La musique distrait, elle permet quand même de penser à autre chose qu'à la fatigue. Donc, on tient plus longtemps et on dépasse ses limites grâce à ce qu'on écoute, en partie en tout cas. Mais alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il faut écouter ? Virginie, elle a trouvé la chanson qui colle au sujet.
Ah ouais. Ça pour pousser de la fonte, James, je peux vous dire que c'est bon.
Les Daft Punk, ça marche ça.
Hein, ah bah oui.
Ça marche un peu plus. Mais en fait, le morceau le plus écouté en France pour faire du sport, c'est ça.
Ah bon ?
Alors
ah bon,
moi je connaissais pas Jack Jones, You Don't Know Me. Je sais pas, vous connaissez ?
Bah, pas du j'ai tout. Dû l'entendre voilà. Au club de gym, c'est vrai
c'est
que
c'est ça, c'est un algorithme.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu c'est ça. Il y a un truc avec le rythme qui nous emmène en fait à allonger la foulée sans souffrir.
Excusez-moi, j'ai juste une question pour notre invité, qui est quand même une pointure du rock. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous, à la première écoute d'une chanson, vous arrivez tout de suite à dire si c'est de la daube ou si c'est excellent ? Ou est-ce que, moi, parfois, il me faut plusieurs écoutes. Je me dis, tiens, la première fois, j'ai pas fait attention, c'est la deuxième fois.
Plusieurs écoutes. Oui, oui. Il faut voir. Il y a des albums qu'on appelle difficiles, les disques cultes, vous rentrez dedans.
C'est pas forcément catchy.
Ouais, c'est pas tout obligatoirement. Vous avez des musiques qui vous sautent dessus comme un petit chien fou, qui disent viens, etc. Bon. Et puis il y en a d'autres, faut rentrer dedans. Puis après, il y a un univers merveilleux qui se déclenche.
Ah, il faut quand même faire des efforts parfois. Pardon, Eva, donc vous nous parliez de l'impact de la musique sur les performances. Ouais. Et c'est sur le rythme que les chercheurs travaillent essentiellement.
Oui, il y a des chercheurs croates et italiens qui ont travaillé sur les BPM. Les BPM, c'est les battements par minute. Ils ont demandé à 19 femmes qui ont entre 24 et 31 ans, qui sont des sportives du dimanche, de courir 6 km sur un tapis de course. Elles ont dû le faire 3 fois. La première fois sur un rythme lent, entre 90 et 100 battements par minute. Alors on en profite pour faire un blind test. C'était sur cette musique.
Jennifer Lopez. Il y avait un petit indice caché dans la chanson, vous avez vu, je suis beaucoup
from the block.
Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc premier morceau, les 19 femmes courent sur ce titre. Deuxième course avec un tempo moyen entre 130 et 150 BPM. Je vous fais pas l'offense. Hein.
Non, là,
Michael,
on sent quand même qu'au rythme, ça commence à aller un peu plus vite. Hein. Et la troisième sur un tempo élevé entre 170 et 190 BPM.
Ça c'est trop. Là, on ne court pas bien là-dessus.
Rihanna, Umbrella. Alors, évidemment, sans surprise, c'est sur Rihanna qu'elles ont couru le plus vite.
Moi, j'aurais pas dit.
Mais il y a quand même un gros bémol, parce que plus la musique est rapide, plus elle vous fait donc oublier la douleur, ça c'est bien, mais elle vous aide aussi à vous dépasser, et la déchirure musculaire, elle vous pend au nez si vous accélérez trop le tempo. Voilà, alors on court en musique, mais on fait attention à ce qu'on écoute.
Mais dis donc Eva, on a l'impression que c'est vous qui avez écrit
Exactement.
Cette chronique.
Exactement, t'es une speakerine Eva en fait. Tu t'es approprié le travail.
Là, là, c'est vicieux.
T'es pas une journaliste. Je ne sais pas si c'est un compliment ça.
Non, c'est parce que je connais bien le sujet pour courir, et donc j'ai essayé plusieurs playlists, et là, pour tout vous dire, j'ai essayé de courir sans musique pour voir la différence.
Et alors ?
Eh ben, au fond, je préfère.
Sans musique ?
Oui, parce que vous concentrez plus sur votre souffle. Bah, il a été annulé le semi-marathon, je vous rappelle hier. J'ai un peu les boules.
Mais hier, vous êtes dans une conversation WhatsApp que nous avons, vous nous avez fait croire que vous avez couru quand même. C'était faux ?
Bah
d'accord,
oui.
C'était un mytho.
Il y a des gens
qui ont
fait un semi-marathon off.
Oui, seul. Ah, mais seul. J'ai cru qu'Eva en faisait partie, mais visiblement non.
Non,
c'était
pas
une grosse mytho.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
On reste avec Mathieu Noël, Eva Roch, un chroniqueur en compétition également, ici Patrick Cohen, sous l'œil d'un invité, Maître Emmanuel Pierrat, venu nous parler de la nouvelle édition de La Justice pour les Nuls. C'était mardi sur Europe 1.
Comme disait notre invité d'hier, Philippe Manœuvre, ça va aller
plus loin, plus profond, plus fort.
Car Maître Pierrat, je ne vous présente pas Patrick Cohen, figure légendaire du journalisme français. Quand un sujet d'actu est vraiment important, c'est à lui qu'on le confie. Cet après-midi, vous nous parlez bien sûr de cette inquiétude qui monte partout dans le monde. La peur est en train de gagner nos sociétés, la raison.
Les sardines pourraient bien coûter nettement plus cher en rayon.
Mais non Patrick, le coronavirus, c'est ça qui concerne tout le monde actuellement. Vous nous parlez du coronavirus, Patrick.
Absolument.
Mais en chanson,
voilà.
Qu'est-ce que c'est cette histoire ?
Puisque l'épidémie s'éteint et qu'on va tous mourir, autant y aller en chanson. Et d'abord, par une prise de température.
En neuf de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer.
Fever en version française.
Oh, c'est génial.
Et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs.
Oui, c'est bien cela, le virus circule comme dans les marmites de l'enfer. L'adaptation est signée Boris Vian. Et wow. L'enfer, sachez-le, commence toujours par ce symptôme.
La fièvre.
C'est beau ça.
Revenu aussi Joe Dassin. Oui, spécialement pour cette playlist, Joe Dassin, dont la famille a été durement touchée.
La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier.
En janvier, d'autres se résignent, attendent le virus et se préparent à l'issue fatale.
Quand frappé traîtreusement par une grippe mauvaise, celle qu'abat en plein vol les princes des comptoirs, l'heure sonnera pour moi d'aller sucrer les fraises dans des rades lointains du côté d'autre part.
Quand ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Guy Béard en témoigne, il en a réchappé. Il vainquit le virus, mais perdit sa poupée.
Elle me soigna pendant ma grippe. Toujours en perdu les grands principes. Puis elle me quitta bien portant. Ont perdu des grands sentiments.
Les sentiments qui doivent désormais s'exprimer à distance, embrassades, caresses et autres palpations étant proscrits par le corps médical. Mais la maladie n'empêche pas les compliments et le jeu de la séduction.
Ma grippe vous va très bien.
M'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu. Lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Brigitte Fontaine et Jacques Higelin.
Ah ouais.
Et auparavant Guy Béard, Michel Buller, Joe Dassin, Lily Cro. Et Caterina Valente.
Mais vous êtes la mémoire de la musique française, Patrick alors, Cohen.
J'ai un peu cherché aussi.
Patrick, j'attends quand même le chanteur qui mettra coronavirus dans sa chanson.
Alors, il y en a une. Ouais. C'est passé ce matin au journal de 8h d'Europe 1. Il y a eu une petite chanson, comment
parodique,
dire
non,
non, non, non, c'était une chanson qui venait des Antilles, je crois,
ah bon,
à vérifier.
Voilà.
Ouh, ça doit bien sonner, ça.
Oui, c'était une sorte de zouk.
Le zouk du coronavirus. Merci, Patrick Cohen, pour ce beau voyage musical à travers la grippe.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Elle publie son dernier 6e roman, Née sous une bonne étoile. Elle est l'une des 5 auteurs les plus lus en France. C'est Aurélie Valogne, invité de Mathieu Noël. C'était ce mercredi sur Europe 1 et dans un instant, elle affrontera d'ailleurs Eva Rock sur un quiz spécial titre d'ouvrage.
Puisqu'on en parlait tout à l'heure et qu'il a eu un impact majeur dans la vie de notre invité du jour, moi j'imaginais Bernard Werber, l'auteur des Fourmis, comme un type discret, timide et même un tantinet pudique. Quand il m'a dit dès l'intro
« Ok, je te promets du sang, de la chic et du molard. Ma chatte, elle est nymphomane et narcissique et mégalomane. »
J'ai compris contre l'image qu'on projetait et qui en était vraiment. Il y avait parfois un immense décalage. Alors comme ça avait bien marché la dernière fois, je retente. Aurélie Valogne, moi je vous vois comme une femme discrète, timide, limite un peu pudique. Je me trompe ?
Que répondre après ça ? Oui, tout à fait.
Oh oui, vous êtes tout à fait ça. On parle de Né sous une bonne étoile, votre tout nouveau roman qui sort aujourd'hui. Votre héros, c'est Gustave, un petit garçon pas très doué à l'école, mais qui va se révéler grâce à un prof. Un jour, Gustave tombe sur une citation d'Albert Einstein affichée dans sa classe qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il passera sa vie persuadé qu'il est totalement stupide. » Ça résume bien le parcours scolaire de ce garçon.
Ça résume complètement. Et c'est vrai que cette phrase, elle me donne des frissons juste de l'entendre parce que, voilà, ça, c'est un roman qui parle notamment de l'intelligence, à quel point l'école a tendance, voilà, parfois, à... Voilà, c'est pas évident pour tout le monde n'est pas fait pour l'école. Et la question de ce roman aussi, c'est de savoir, mais est-ce que c'est pas à l'école d'être fait pour nous. Et on a tous des souvenirs d'école, parfois très bons, parfois moins bons. Et il y a certaines petites phrases qui font mal, qui blessent à vie. Et les profs font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais les enfants alors, sont en construction à cet âge-là. Donc c'est parfois effectivement compliqué. Mais cette phrase est vraiment clé pour le roman.
Alors il est tout à fait juste que le système scolaire formate pour une certaine forme d'intelligence. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas adapté à ça ? Parce qu'il faut bien se taper un certain nombre d'années dans ce système scolaire. Donc comment on fait que quand on dit on a un enfant qui n'est pas adapté d'évidence au système scolaire, qu'est-ce qu'on lui dit ?
Qu'est-ce qu'on lui dit ? Je pense qu'il a besoin d'être entouré et d'être rassuré. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout enseignante. J'en ai interviewé énormément pour ce roman. J'ai vu des orthophonistes. Je pense qu'il faut mettre en place des structures qui prennent en charge différemment ces enfants atypiques. Et je ne dis pas forcément d'avoir des auxiliaires de vie qui viennent en classe et qui accompagnent les enfants, mais juste se dire chacun a son talent, il faut juste se trouver, prendre le temps. Et on n'est pas forcément pressé, on va tous dans la même destination. Donc voilà, il faut respecter l'enfant et respecter aussi le prof qui fait souvent ce qu'il veut.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage.
Chaque jour, aux alentours de 5h-20, Eva Rock défie l'invité de L'Équipée Sauvage sur un thème qui a priori la défaite favorise. Aujourd'hui, vu qu'on reçoit Aurélie Valogne, dont les romans se vendent à des millions d'exemplaires, le thème devrait être la littérature. Mais attention, Aurélie, une femme blessée est extrêmement dangereuse. Or, Eva est extrêmement blessée. Depuis cette réflexion assassine de son collègue Axel de Tarlé lundi, qui s'étonnait qu'elle puisse lire avec tant d'aisance le texte rédigé par une autre journaliste qui n'avait pas pu venir ce jour-là et qu'elle remplaçait gentiment au pied levé. Réflexion d'une mufflerie sans nom.
T'es une speakerine, Eva, en fait.
Eva est remontée à bloc, prête à faire bouffer à Axel les pages saumon du Figaro.
T'as
voici notre quiz.
Denis
Favre, qui est de Nice comme vous, non ?
Mais oui, c'est pour ça que j'ai
c'est pour ça.
C'est pour ça que j'ai dit ça.
J'ai compris la vanne, mais à retardement. Aurélie Valogne pour le duel qui vous oppose à Eva aujourd'hui. On va jouer à titre ou pas titre. Un quiz. Non, non, pas le jeu du titre avec les films pornographiques, Eva, auquel vous jouez le soir. Non, non, non. Un quiz au principe très simple. Je vous donne des titres d'ouvrages. Vous me dites si vous pensez que oui ou non, ces livres existent vraiment ou s'ils sont totalement inventés.
C'est parti.
Eva Rock, on commence avec vous.
Oui.
Pourquoi cette musique ? Ah oui, d'accord, oui, pardon. Non, mais ça ressemble tellement à la musique d'un porno ukrainien. J'ai oublié le lien avec la littérature. Et Baroque, on commence avec vous. Je m'appelle Jeanne Masse. Vrai ou faux titre ?
Elle est capable d'avoir sorti son autobiographie.
Réfléchissez. Allez, bien, Eva.
Je dis vrai.
Vous dites vrai ?
Oui.
Est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi ? Suffisamment ?
Que je réfléchisse ou pas, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein.
Bonne réponse. Vrai titre. Mais pas du tout écrit par Jeanne Masse. Écrit par Thomas Lélu en 2007 aux éditions de La Nouvelle Génération. Jeanne Masse est un homme, videur dans un bar. Il est persuadé que son patron a été tué par deux ours roses. Ça donne envie
de ne pas en savoir plus. Oui, d'accord.
Aurélie Valogne, autre titre. Avant d'être une femme, j'étais une femme. Vrai ou faux titre ?
C'est stupide, hein. Vous pouvez dire que c'est stupide comme quiz.
Oui, je vais dire non, non.
Bonne réponse, c'était un piège. Eva Rock.
Ah, c'est tout ?
Comment
ça ? Vous dites que c'est un piège et on l'a inventé, quoi, voilà, c'est tout.
Mais je n'ai pas à me justifier, Eva.
Ah oui.
On n'est pas dans une démocratie ici.
C'était un vrai titre ?
Non, non, c'était un faux titre et je n'ai pas à me justifier. Eva Rock. Une moule sur une ordure qui picolait d'une main dure. Bel hommage à la comptine, mais est-ce un vrai livre ?
C'est trop long pour un vrai titre.
Ah non, je dis vrai, je dis vrai.
Vous dites vrai, c'est une mauvaise réponse. Et pas d'explication non plus, c'est juste un trip du mec qui a préparé ce quiz. Aurélie Valogne, N'allez pas croire qu'ailleurs l'herbe est plus verte, elle est plus loin et puis c'est tout. Selon vous, vrai ou faux titre?
Je dirais trop long, donc non.
Vrai titre.
Ah, vrai.
Écrit par Muriel Levroux en 2007. Elle élève également des escargots. J'aime bien les précisions qu'on me met. Ça pouvait éclairer sur les divagations de la personne. Eva Rock.
Oui,
le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. Vrai ou
oui,
faux
c'est
livre.
Vrai, ça.
Comment vous le savez?
Mais je sais pas, ça me dit quelque chose, le truc de l'orange. Je dis vrai.
Eh bien, écoutez, vous dites vrai. Écrit par Karine Prejokaj, j'écorche certainement le nom, qui apprend à 30 ans, et c'est pas drôle, qu'elle a un cancer. Elle raconte son combat. Préface de Jean-Louis Servan-Schreiber, comme quoi il ne faut pas forcément juger un livre à son titre. Aurélie, que c'est triste Venise. Enfin, pas toujours. Des fois, ça peut quand même être joyeux, notamment au moment du carnaval.
J'hésite beaucoup. Mais je dirais faux titre.
Oui, cette fois-ci, votre bon sens est gagnant. C'est un faux titre. Et Baroque, accrochez-vous, Eva.
Ah, alors, attention, allez-y.
Et je m'excuse d'avance si mes parents m'écoutent.
Ah bah c'est faux titre.
Alors, je ne donne pas la réponse avant. Eva Rock, pas dans le cul aujourd'hui. Vrai ou faux titre?
Ah non, ça c'est vrai. La personne qui fait ce quiz aurait été incapable d'inventer ce faux titre.
Déduction brillante d'Eva Rock. Effectivement, c'est un vrai titre de livre. Je lis pour vous la quatrième de couverture. Ce livre raconte la rébellion extraordinaire d'une femme face à l'ambiance étouffante qui règne en Tchécoslovaquie d'après-guerre. Véritable manifeste pour la liberté individuelle. Dans les années qui précèdent le printemps de Prague, Jana Cerna, en refusant de se soumettre à la primauté masculine, affirme aussi son souhait d'une sexualité non séparée des sentiments et de l'activité intellectuelle. Comme quoi, il ne faut vraiment pas juger un livre à son titre. Enfin, cette question va vous départager. Vous êtes au coude à coude, c'est du jamais vu dans l'histoire du quiz. Aurélie Valogne, tu me fais mal avec ton coude, justement. Vrai ou faux titre?
Faux titre.
Réfléchissez bien, Aurélie, regardez-moi.
Alors, vrai titre.
Vrai titre. Oui, sur le fil. Vrai titre, sorti en 2006, un livre de Stéphane Lévy-Quentz, La compagne repentie d'un militant pro-fasciste, propose une réflexion sur la virilité qui
c'est
a toujours
sympa,
fait le lit des hordes totalitaires, comme quoi parfois on peut juger un livre sur son titre. Mais bravo
d'ailleurs, pardon.
À Aurélie.
Oui, pardon.
Mais intervenez dans mon texte.
Oui, pas dans votre texte. Mais Aurélie, est-ce que vous galérez pour trouver les titres de vos romans?
Alors, à votre avis?
Oui, à mon avis, oui, parce que c'est, ça
que
doit être extrêmement compliqué.
À la fin ou avant d'écrire le roman?
Ça dépend. L'année sous une bonne étoile, j'avais pas d'autres titres. Il s'est imposé à moi, c'était celui-là. Je pense qu'il y avait du Hayam, il y avait plein de choses dans la tête, donc c'était une évidence. Mais dans les orties, je l'ai trouvé après avoir écrit. Donc, ça dépend vraiment, en fonction du roman. Mais j'ai vraiment besoin, moi, de me laisser, d'avoir le roman parfois finalisé pour pouvoir me dire. C'est toujours le titre que j'avais en tête ou pas? J'ai toujours un titre de travail, parfois c'est pas forcément le bon.
Axel de Tarlé la regarde avec une jalousie palpable, lui qui n'a vendu que 127 exemplaires de son dernier livre. La star de l'édition française, Aurélie Valogne, reste avec nous. Consolez-vous Axel en imaginant les impôts qu'elle paye.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Chaque après-midi nous accompagne Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, nos chroniqueurs en compétition. Et c'est au tour maintenant d'Ève Roger de présenter son sujet. C'était vendredi 28 février lors de l'émission En public avec Cadmeyrade et Claudia Tagbo. Les deux comédiens sont à l'affiche de la pièce Amis, à voir au théâtre de la Michaudière à Paris.
Claudia Tagbo et Cadmeyrade sont avec nous. Et justement, l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrente du jour, Ève Roger. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Plus de partenaires.
Non, bonne chance plutôt, on va se concentrer là-dessus, sur votre chronique, un problème à la fois. Or, justement, ce soir, Ève, vous nous parlez d'un nouveau mal psychologique qui nous guette.
Et oui, ça peut paraître étonnant, mais le burn-out émotionnel est un phénomène réel qui consiste à s'épuiser à force de trop d'émotions.
Ah, ça c'est moi.
Alors, pour bien comprendre, il faut avoir en tête que chacun de nous a un réservoir en soi rempli tous les jours de l'amour qu'on porte à son conjoint, ou à ses enfants, de l'agacement qu'on éprouve vis-à-vis d'une collègue, de l'énervement ressenti dans le métro le matin même, ou même, au contraire, de l'émerveillement qu'on a eu devant un paysage. Bref, des émotions, des sensations qui nous traversent toute la journée. Et ce réservoir, eh bien, des fois, il n'est pas infini. Des fois, une émotion trop et pof, il explose. Et vous allez comprendre comment. En écoutant le psychanalyste Saverio Tomasella, il est auteur de La charge affective aux éditions Larousse.
On a par exemple une mauvaise nouvelle. On apprend la maladie d'une personne proche. Ça commence à nous préoccuper. Comment je vais faire pour aller la voir parce qu'elle habite à l'autre bout de la France? Et en même temps, on apprend qu'on va être muté. Pourtant, c'est une promotion, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ces émotions supplémentaires vont créer une surcharge émotionnelle. Et pendant ce temps où on est préoccupé à la fois par sa famille, par son travail, la mutation, le déménagement, un soir, on rentre et notre conjoint nous apprend qu'il nous quitte. Voilà. On n'y arrive plus, on craque, on a envie de tout casser ou au contraire, on reste au fond de son lit. Et commence cette descente aux enfers qui s'appelle le burn-out et qui là va concerner uniquement des émotions.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est que les sentiments positifs aussi peuvent conduire à un burn-out émotionnel.
Et c'est ça, c'est le plus surprenant. C'est un immense bonheur, une immense joie. Ben, ça peut être trop fort. Ça arrive, vous savez, après une naissance par exemple, ou un mariage, ou même un projet auquel on a rêvé qui finit par aboutir. Et ben, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se joue là, c'est à la fois l'accumulation, on l'a entendu, là on vient d'entendre l'accumulation, mais aussi l'intensité de ces émotions, il faut que ça soit très fort, et puis la résonance, parce que parfois certains événements qui nous arrivent, eh ben, ça nous rappelle de façon parfois inconsciente quelque chose qui nous a beaucoup secoué dans l'enfance ou dans l'adolescence.
Mais Ève, peut-on éviter ce burn-out émotionnel?
Ah oui, à condition d'être attentif à ses propres émotions, à soi-même, pour réussir à vider régulièrement ce fameux réservoir. Alors on peut le vider en écartant ce qui n'est pas bon pour nous, prendre un vélo plutôt que le métro, ou même faire le tri dans nos relations, parce que certains amis, ils ne sont pas toujours très bienveillants. Vous allez entendre l'histoire de Marguerite. Marguerite est sa meilleure amie. Elle est racontée par Charlotte Wills, co-autrice de La Charge Affective.
Marguerite, en fait, elle se rend compte que de plus en plus, sa meilleure amie, régulièrement... lui lance des petits pics, lui dit des choses pas sympas, pas agréables. Elle va critiquer sa coupe de cheveux, son nouveau petit copain ou sa tenue. Donc au début, elle va rien dire. Elle encaisse, elle accumule. Et c'est cette accumulation, en fait, qui fait qu'elle lui dit « Bah écoute, tu vois, j'en ai assez. Et là, c'est terminé. Je veux plus te voir, quoi, en fait. »
Donc se débarrasser des relations toxiques, on connaît ça, les gens qui vous font pas de bien finalement, on croit que c'est des amis.
Mais c'est difficile
non.
D'identifier les relations toxiques parfois.
Bah, vous sentez,
les gens qui nous séduisent, si ils
êtes,
sont toxiques.
Si vous êtes attentif, vous sentez ce malaise sans pouvoir forcément l'identifier, mais on le sent, il y a des gens qui ne vous font pas du bien.
C'est pour ça que moi, je ne vois plus trop Mathieu Charrier en dehors. Avant, je voyais une époque où on dînait beaucoup ensemble, maintenant, plus beaucoup.
Et vous comprenez pourquoi maintenant.
Oui, c'est vrai, je comprends.
C'est pour ça qu'il faut
je me sens mieux d'ailleurs,
lui.
Je me sens beaucoup mieux.
Mais je peux poser une question aux comédiens qui sont devant nous. Est-ce que vous n'avez pas un trop-plein émotionnel parfois en sortant d'un tournage, justement, d'un tournage ou d'une pièce?
Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, moi, parce que tout de suite, c'est compensé par autre chose.
Un autre projet.
Ça va assez vite. Même tous les soirs, quand on finit de jouer, je suis contente. Avant de rester sur scène, ne serait-ce que hier, quand on a fait le filage, on dit bon, c'est bon, costume. Ah, on est comme ça. Ouais. Et une fois qu'on a fini, ben. Quand son premier mot c'est de dire ah non les gars ça, c'était pas bon, c'était pas machin, tout de suite tu redescends. finalement on trouve un équilibre à chaque fois.
Mais il n'y a pas des moments dans votre vie de comédien, surtout vous qui avez beaucoup de succès qu'admirate Claudia Tagbo, des moments où finalement le quotidien paraît fade par rapport à ce que vous vivez en termes d'intensité, d'applaudissements du public?
Ça c'est impossible, à mon avis ça arrive quand,
pas gentil
quand
pour
le succès quand le succès est pour moi, hein, je pense que le succès est arrivé très tôt, ça peut arriver ça peut-être,
oui.
Mais quand c'est arrivé tard comme nous autres qui avons bien mangé, en tout cas moi, la racine, non, tu fais bien la part des choses en disant ça c'est la réalité et ça c'est le virtuel, en tout cas pour moi.
En tout cas pour vider son réservoir régulièrement, il faut savoir ce qui nous apaise, et ça alors Mathieu Charrier rigole en voyant ce qu'il a écrit, j'ai mis prendre une douche, ça peut
apaiser. Ça, vous devriez vous en inspirer Mathieu, c'est vrai.
Ou se balader en forêt ou
faire du sport
ou téléphoner à un ami et parfois dire je t'aime à son conjoint.
Oui, et parfois dire je t'aime à un ami aussi.
Ah
oui, j'ai tenté un truc un petit peu comme ça qui venait du cœur, mais en fait, bon, je suis pas très bon acteur, donc ça n'a pas marché.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et retour de l'équipe est sauvage demain dès 16h sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Roque, nos journalistes, chroniqueurs et puis un invité d'honneur. Demain, ce sera le comédien Nicolas Duchovel à l'affiche d'une sirène à Paris. Restez avec nous, Wanny Bouchard vous informe jusqu'à 20h. Rendez-vous pour le grand journal du soir dans un instant.